2. Bienvenue dans le Paris Central Show. Aujourd'hui, on va parler des Galactiques du Real Madrid face aux Galactiques du Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est le même système? Est-ce que ça aura la même finalité? On va également parler de Kimpembe. On va faire un point sur le Bayern. On va parler de Skriniar et on va également parler de Vlahovic. Alors, on va commencer par le gros sujet du jour. Et désolé, je suis pas à l'écran aujourd'hui, mais Dryas va se charger pour moi. Dryas, avant de lancer le grand sujet, est-ce que tu penses que les Galactiques du Real et les Galactiques du PSG vont avoir la même finalité?
Bah, le truc, c'est qu'au Real, c'était un peu plus cohérent. Tu avais des Galactiques au milieu. Nous, on met tous nos Galactiques devant. Donc, ça va être pire que le Real.
Et toi, Basto?
À l'époque la vraie époque Real Galactique, tu as quand même Ronaldo devant, qui d'ailleurs n'a jamais gagné Ligue des Champions dans sa carrière. Quant à Figo, Beckham, Zidane et Ronaldo, le Real, c'est 0 titre en 2 ans. Après, ils continuent sur une pseudo-période galactique où ils vont prendre des joueurs vieux, en fin de contrat, qui sont plus au niveau, qui sont blessés, comme Michael Owen, Cannavaro, etc. Et ça va pas, le Real ne passe plus les 8e de Ligue des Champions pendant plusieurs années. Il continue ensuite un pseudo-galactique avec Ronaldo, Benzema, Kaka. Il y a 1 ou 2 ans pour que ça se lance et finalement, ils s'en sortent. Le problème, c'est que le Real, il y a eu que 5-6 ans, on va dire, d'air vraiment galactique. Paris, j'ai l'impression qu'on est parti pour 15 ans. Donc, c'est le Real a su apprendre de ses erreurs. Est-ce que Paris va le faire? J'en suis pas sûr.
Et toi, Barry?
Bah, c'est deux problématiques différentes. Lorsque Florentino Pérez récupère les Galactiques, c'est vu la défaite économique, malgré que le Real avait fondé Ligue des Champions, si je ne dis pas de bêtises, en 97 et 99, si je ne dis pas de bêtises, ils venaient de prendre de Ligue des Champions, mais il y avait des gros problèmes économiques. Et donc, la stratégie galactique de Pérez, déjà, c'est axé sur une chose. La première, c'était de se faire élire. Il avait promis aux supporters de ramener Figo, et ensuite, derrière, il a construit en allant chercher beaucoup de joueurs, alors que Paris Saint-Germain, l'idée première lorsque tu es parti chercher ce système de Galactique, c'était de faire augmenter le marketing. Aujourd'hui, moi je le dis souvent, malheureusement, si tu vas avoir le même train de vie que les gros clubs qui sont le Real, le Chelsea ou autre, bah, tu es obligé d'avoir ce système un peu de Galactique. On prend l'exemple.
Marie, je reprends la parole. Essaie de reconnecter tes câbles. Parce que tu as un problème de son.
Le son n'est pas top.
Ok, bah, alors, attends, redonne-moi la parole après. Redonne-moi la parole.
C'est bon.
C'est bon là, c'est bon.
C'est bon ? Ok, ouais. Le câble était mal branché du coup. Alors je disais oui, quand je parlais des Galactiques, alors il y avait deux problèmes distincts.
Vous avez à chaque fois que tu recules, tu redébranches le câble.
Ouais, c'est plus bon.
Alors attendez, là vous attendez. Là vous m'entendez bien là ?
Oui.
Ouais. Ouais, mais ben, on va faire le tour parce que sinon les gens ils vont nous dire est-ce qu'on travaille chez Audio Technica ? Vas-y.
J'arrive, je reviens.
Dryas, j'ai une question. Aussi, il y a quelqu'un qui a mentionné qu'il y avait des Galactiques au milieu. Moi, je sais que le Real, ils ont réussi à gagner une Ligue des Champions, mais ce n'était pas encore vraiment les Galactiques. Il y avait Figo et Zidane. Ce n'était pas encore l'époque. On peut comparer ça, par exemple, à l'époque où on avait Neymar et Mbappé, et on va en finale de face au Bayern. Si la finale s'était passée autrement, comme Zidane, il a mis une reprise et pour l'envoyer en pleine lucarne, peut-être qu'on aurait eu cette Ligue des Champions aussi. Mais une fois qu'ils ont ramené... Ils ont ramené Ronaldo l'année d'après. Après, ils ont ramené Beckham au détriment de Makelele. Est-ce que ça ne s'apparente pas un peu quand on a ramené Messi? Et là, l'équilibre, il est complètement rompu.
Et Ramos, comme il ramène Cannavaro plus tard.
Ça peut y ressembler, mais comme le disait Basto, justement, c'est en fait, il faut tracer ça depuis Zlatan. Alors, la grande différence avec Zlatan, c'est que tu as un meilleur équilibre du mercato global avec notamment des Mota, des Maxwell. Pardon. Etc. Mais en fait, c'est une stratégie sportive qui a vraiment aidé le développement de la stratégie marketing, mais c'est un petit peu comme si le Real l'avait fait, comme disait très bien Basto tout à l'heure, comme si le Real l'avait fait pendant 10 ans. Et nous, on n'arrive pas à se remettre en cause, on n'arrive pas à rentrer dans une logique où oui, on a une tête de gondole qui nous permet de vendre. Mais derrière, on va avoir des bons joueurs, etc., etc. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on va parler de Skriniar, mais le rapport en termes de négociation avec Skriniar à l'heure actuelle, si ce qui est dit est vrai, en dit tellement long sur l'image qu'on a que voilà. Et c'est directement lié à ce rapport-là, au fait de tout le temps avoir des joueurs que tu as surpayés, des joueurs que tu dois mettre en avant, et cette incapacité de remettre en cause la gestion qatari du club.
Toi, Basto.
Ouais, je peux citer ce que disait Coco Suodo sur le Real Madrid de l'époque.
Vas-y.
Vous allez me dire si vous vous y retrouvez avec Paris. Dans le football, il y a le jeu dans les pieds et celui dans l'espace. Si tu ne fais que l'un, tu es mort. À un moment, la tendance du Real, c'est de ne jouer que dans les pieds. Tu finis par ne plus surprendre personne et c'est terrible. La maladie d'une équipe, c'est le statique. À un moment donné, plus aucun mec ne se démarque pour avoir le ballon dans les bonnes conditions. Il y en a un qui n'avançait plus, Raoul. Et pourtant, avant, il bougeait, il comprenait, mais il en a eu marre. Il s'est dit « Ok, je fais comme les autres ». T'avances plus et donc tout le monde dribble et pas dans les bonnes conditions. Quand il n'y a que des gens pour donner la balle, c'est compliqué. Zidane l'avait dans les pieds, puis il regardait. Le problème, c'est que son coéquipier le regardait aussi. Donne-moi la balle, je suis capable de la donner aussi. Ça tournait en rond. Il faut respecter le minimum vital, même avec des grosses individualités. Et le Real ne respectait pas le minimum, le mouvement. On peut remplacer Raoul Zidane par Neymar, Messi ou je sais pas quoi, mais on arrive à quand même à une finalité qui ressemble beaucoup à notre jeu.
Bah, c'est complètement le Paris Saint-Germain de maintenant. Il y a d'autres comparaisons qu'on peut faire. Il y a, par exemple, on a eu des embrouilles entre Ronaldo et Raoul, des guerres d'ego où l'un trouvait que l'autre était trop personnel. On pourrait dire que ça s'apparente à ce qu'on a eu avec Neymar et Mbappé, tout ce qui est penalty gate, tout ce qui est les histoires de clochard gate et tout ça. Et après aussi, ce que je voulais voir avec vous, c'est est-ce que le PSG à un moment donné a eu un Makelele, parce que je pense que Makelele, c'est comme ce qu'on dit souvent sur Verratti, que c'est ni un 6, c'est ni un 8. Je suis pas en train de comparer, je te vois déjà direct, Draya, c'est... je suis pas en train de comparer les deux, je te dis que les deux, en fait, c'était ni des 6, ni des 8. Donc, est-ce que l'année où ils ont quand même gagné avec Zidane et Figo, est-ce que, entre guillemets, on n'aurait pas pu gagner si on avait eu notre Makelele à nous?
Mais pour moi, la comparaison n'est pas bonne. C'est plutôt avec Mota qu'il faut la faire, en fait. Bon, après, il n'est pas parti pour les mêmes raisons, mais on avait effectivement un homme qui a assuré le milieu et c'est un départ qu'on n'a jamais su compenser. On a cru cette année qu'on avait commencé à le compenser. Et d'ailleurs, on a commencé à le compenser avec l'arrivée de Vitinha, mais Vitinha n'a pas la... Enfin, tu compares l'expérience de Mota quand il arrive à Paris et l'expérience de Vitinha quand il arrive à Paris, c'est le jour et la nuit. Et voilà, et du coup, tu peux faire cette comparaison. Mais après, oui, en soi, dans la logique, c'est celle-là. C'est exactement ce qui s'est passé. Tu as Mota qui est parti, tu n'as jamais cherché à le remplacer. Il faut se souvenir que quand on avait des stars qui arrivaient devant, on avait des Stambouli, on avait des Krikoviak, on avait des Ganagay, on avait des etc., etc., etc. qui arrivaient au milieu. Et on n'a jamais su se remettre en cause. Et oui, effectivement, comme pour le Real, ça s'est joué au milieu du terrain.
Ah ben, Barry est revenu. On t'écoute.
Alors, j'ai pas entendu la question, désolé.
La question, c'était est-ce que lorsque Makelele assurait l'équilibre du Real Madrid, est-ce que entre guillemets, Verratti n'est pas un peu, enfin n'a pas pu être ce Makelele que le Real a eu, qui a réussi à équilibrer l'équipe malgré les deux de devant.
Après, c'est deux styles de jeu différents. Makelele était fort sur l'homme, fallait réussir à le bouger. Pour moi, comparer les deux équipes, faut comparer les systèmes. Excusez-moi, il y a mon chat qui m'a... Il faut comparer les systèmes, il faut comparer les joueurs que tu as. Makelele et Verratti, c'est incomparable. Tu peux comparer dans la maîtrise du ballon, tu peux comparer dans l'apport qu'ils ont pour leur équipe, mais globalement, c'est deux styles de jeu différents. Là où Verratti va multiplier les touches de balle pour pouvoir scanner là où se trouve son équipe, Makelele, il jouait très rapidement et surtout, il était capable de prendre le ballon, se projeter en avant. Il était très athlétique, très physique sur les duels. Donc non, pour moi, c'est incomparable.
On a notamment des déclarations de Florentino Pérez qui probablement a fait la plus grosse erreur de cette phase galactique quand il a dit « Makelele ne va pas nous manquer, sa technique est moyenne, il manque de vitesse et de talent pour dribbler ses adversaires et 90% de ses passes sont en arrière ou latéral. Les jeunes joueurs qui arrivent feront oublier Makelele. » On n'a jamais réussi à voir que les jeunes joueurs, ils ont réussi à éliminer Makelele. Et Makelele, il te dit, je n'intéressais pas car je ne vendais pas assez de maillots. Donc là, on est encore dans la politique de marketing que le Paris Saint-Germain est là où on a acheté des joueurs pour qu'ils vendent des maillots. Et on voit à terme que sur le Real, ça n'a pas fonctionné. Et qu'est-ce qu'on pourrait apprendre du Real qui pourrait nous bénéficier pour la suite?
Valdano le disait, hein. Il disait au Real Madrid, le problème, ce n'était pas la superposition des talents, mais des images, en fait. Donc oui, quand tu mets des mecs qui sont là pour vendre le maillot et que tu fais des choix sportifs qui sont qui sont mis pour vendre des maillots. On peut même penser à Sergio Ramos ou Messi dernièrement, même si Messi apporte aussi sportivement. C'est compliqué. Ils s'en sont sortis. Ils s'en sont sortis après une dizaine d'années. Il y a eu l'ère galactique qui a duré vraiment 3-4 ans. Il y a eu ensuite, il y a eu une suite où ils ont eu du mal, un entre-deux, où ils ont eu du mal à s'en sortir. Et ils ont fini par s'en sortir parce qu'il y a eu une politique sportive différente. Mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que le Qatar a compris ou est-ce que le Qatar veut sortir de cette politique sportive différente? J'en suis pas convaincu. On verra ce qui se passe quand Messi ne sera plus là, quand Neymar ne sera plus là, mais c'est pas tout de suite. Ouais.
Bah, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Moi, je suis pas d'accord avec ça, parce que déjà, comme j'ai dit, les galactiques du Real et les galactiques du Paris Saint-Germain, tu as deux problématiques différentes. La première problématique, elle est économique. Alors, à Madrid, lorsque Florentino Pérez arrive, même si Madrid sort de Ligue des Champions, ils sont dans un full économique. Et au Paris Saint-Germain, ces stratégies de marketing que tout le monde décrit, les gars, le PSG est dépendant de ça. Je prends encore l'exemple des droits TV. Les droits TV du Paris Saint-Germain sont inférieurs aux droits TV du dernier PL. Le dernier PL a des droits TV de 117 ou 118 millions sur la saison écoulée. Le Paris Saint-Germain est à 57 millions. Alors, vous aurez beau dire, oui, mais ça nous énerve d'avoir des laissés, etc. Ah les gars, la billetterie n'est pas au point. La billetterie ne permet pas d'avoir une rémunération cohérente pour le club. La Ligue des Champions aussi, parce que souvent tu sors en huitième, soit tu sors en quart, tu dépasses très, très rarement les demi-finales, voire la finale. Donc forcément, il faut les trouver les ressources. Vous demandez à avoir des mercato cohérents, vous demandez à briguer à des places dans le dernier carré final de la Ligue des Champions. Forcément, il faut des sous. Et les sous, la dernière solution, c'est d'aller chercher dans le marketing, dans les et les Messi, Neymar, etc., vous êtes en train de décrier, c'est eux qui les ramènent, ces marketing-là. Donc la prolongation de Messi aussi, elle vient de là aussi.
Alors moi, je n'ai pas du tout la même lecture que Barry, autant je peux la comprendre par rapport au début et au lancement du projet, quand il fallait que tu te fasses un nom. À l'heure actuelle, il faut être conscient que le Paris Saint-Germain, c'est sans doute le club le plus suivi aux États-Unis. C'est un des clubs qui commence à être très suivi en Asie. C'est une fanbase qui est monstrueuse. Il y a eu un énorme travail qui a été fait à ce niveau-là. Et si tu avais une star, bien sûr, en soi, bien sûr que tu as besoin d'avoir une star. Mais tu as besoin d'avoir une star. Tu n'as pas forcément besoin d'en avoir trois. Et il y a un moment où, effectivement, tu fais vendre parce que tu as des stars, etc., etc. Mais si tu gagnes des Ligues des Champions, ou en tout cas, tu fais même pas forcément la gagner, ne serait-ce que faire un parcours cohérent en Ligue des Champions où des gens peuvent s'identifier dans ton club. S'identifier dans Paris Saint-Germain, moi, j'arrive même pas à comprendre comment est-ce qu'on a autant de fans. C'est vraiment s'identifier à la loose, cette espèce d'état d'esprit où tu vas gagner les matchs faciles, tu vas être fort contre les faibles et faible contre les forts sur le moyen terme. C'est vraiment ce qui dégage en Ligue des Champions. Tu enchaînes les déconvenus avec certains matchs qui sont en dessous de ce que tu peux attendre du niveau de cette compétition. En Ligue 1, tu caracoles en tête sans forcément être bon dans les confrontations directes avec tes poursuivants, d'une manière générale, si on s'amuse à faire le bilan des saisons. Et donc, il y a cette identification qui ne se fait pas. Mais si tu travailles sur l'identification dans le sportif, l'adhésion que tu as déjà au niveau marketing mondial, blablabla, elle ne fera que s'intensifier. Ce qui manque à l'heure actuelle au Paris Saint-Germain, c'est certainement pas encore plus d'adhésion, encore plus de followers parce qu'on a des grands noms. C'est une cohérence sur le terrain où effectivement va se traduire des campagnes qui vont permettre cette identification d'un public qui va créer un attachement qui sera d'autant plus fort.
Mais c'est pas ce que je t'ai dit. C'est pas ce que je t'ai dit.
Mais si, tu étais en train de dire, il faut
pas rebondir sur
le volet d'avoir trois stars.
Rebondir sur le volet économique, Barry.
Vas-y.
Notre explosion des pertes, notre explosion de la masse salariale, le fait depuis quand qu'on est bloqué de plus en plus en fair play financier, ça a commencé avec l'arrivée de Neymar Mbappé et ça s'est aggravé avec l'arrivée de Messi. Même Jean-Claude Blanc disait que d'un point de vue économique, lui, il était contre faire Neymar plus Mbappé, il voulait en faire qu'un des deux et il était contre la venue de Messi parce que pour lui, c'était un non-sens économique. Et des économies, on en parlait aussi. Donc depuis qu'il y a tout ça, on a des pertes qui sont de plus en plus grandes. Cette année, on a plus de 300 millions de pertes. On est le club qui a le plus de pertes cette saison en Europe. Donc si c'est un truc économique, ça ne marche pas bien a priori.
Alors déjà, Drias, quand tu prends un propos, ne raccourcis pas pour avoir raison, parce que c'est pas du tout ce que j'ai dit.
Je n'ai jamais fait ça, Barry.
J'ai jamais dit ça. Bah, ensuite, la prolongation de Messi, il y a une réalité économique qui est à l'instant T, qui est à la fin de la saison. Les droits TV sont renégociés à la fin de la saison. Donc le fait de garder le Messi, ça te permet d'avoir des droits TV qui seront plus élevés. Donc ne raccourcis pas un propos à me dire que oui, j'ai dit que Neymar et Messi devaient rester. et sans, au détriment de la cohérence sportive. Non, à l'instant T, il y a une réalité économique au Paris Saint-Germain, et comme le répétait Pascal à l'instant, il y a une réalité économique au Paris Saint-Germain qui fait que tu as plein de joueurs que tu surpayes, qui ne sont plus dans ton club et qui pourtant ne performent même pas ailleurs. Donc tu n'arrives même pas à récupérer ne serait-ce que 2 millions de chèques à la revente. Les mecs ne partent pas, ils ont des salaires énormes. Donc tout ça, ça crée un flou. Et donc forcément, tu ne peux pas perdre les deux la même année. C'est pas possible. Tu dois en garder un. Et comme je le répète encore, à la fin de la saison, tu as tes droits TV qui sont renégociés. C'est pas possible. En gardant Messi dans ton championnat, l'acteur actuellement qui est Amazon, bah forcément, tu vas renégocier les droits TV à la hausse. Et donc forcément, il y a une réalité économique qui fait que Messi doit être prolongé, tout simplement.
Après, le sujet, c'est est-ce que sportivement, les Galactiques de Madrid n'ont pas marché et Paris, ça a l'air de ne pas marcher. Et comme je citais tout à l'heure ce que disait Siodo, on est quand même dans un truc qui se ressemble sportivement sur le terrain, où quand on empile des stars souvent dans la même zone, ça ne marche pas ou ça marche peu. Là, on part sur le volet économique PSG, c'est peut-être...
Sur le volet économique PSG, les droits TV, ils ne sont pas vendus à l'international. Ils sont vendus en France. Et les droits TV, quand ils sont renégociés en France... Et ben après, s'ils sont vendus à l'international et que c'est cette année que c'est réattribué, mais je ne pense pas que ce soit le cas, parce que si ma mémoire est juste, c'était justement il y a un an ou deux que ça a été attribué, donc ça me surprendrait que ce soit le cas dès cette saison. Et si c'est sur la scène nationale, un Messi a beaucoup moins d'impact qu'un Mbappé. Mais on s'éloigne complètement du débat. Le débat, c'était par rapport, comme vient de le rappeler, au Real Madrid. Est-ce qu'il y avait un point de comparaison? Et après, c'est juste que quand, au niveau économique, au niveau global, si tu veux développer ton économie après l'avoir développé justement sur des grands noms et avec des grandes associations en termes de marque, maintenant, le dernier axe, si tu veux développer ton économie, pour reprendre l'argumentaire que tu étais en train de prendre, ça va être justement de créer une adhésion sportive. Et ça va être le dernier axe sur lequel il faut travailler. Mais la grande problématique avec les Qataris à l'heure actuelle, et tu vois, ça c'est un truc dont on ne parlait pas. Quand le Real fait les Galactiques, on est dans les années, fin des années 90, dans les années 2000, on est vraiment dans une société où le bling-bling est plus mis en avant, où le délire un peu US de la possession, voiture, machin, bidule chouette, c'est moi qui ai la grosse caisse, blablabla, on est en plein dans ce délire. On a un peu changé d'époque. Et le Paris Saint-Germain n'est pas capable de se remettre en cause à ce niveau-là, et qui a un vrai problème de prise de conscience. On en parle par rapport aux stars, mais on peut aussi en parler dans les relations qu'il y a entre la direction et certains joueurs. Je sais que c'est ma marmotte et que je reviens souvent dessus, mais de voir des Marquinhos qui sont prolongés par principe, etc., etc., on est dans ce rapport-là. On est dans un rapport où il y a un individu, on veut mettre en avant un individu, soit par leur relation, soit parce qu'en termes d'image et de vent, au détriment d'une cohérence sportive, d'une cohérence globale. Et si tu veux encore te développer économiquement, aller encore plus loin, damer le pion, alors après, oui, je sais que tu as des contraintes, le fair play financier, etc., etc. Mais si tu veux aller plus loin, ça va être sportif. Et pour terminer, après, peut-être qu'on pourrait passer à autre chose, j'en sais rien, mais pour terminer, quand tu as, en termes de contrat, trois joueurs que tu payes plus de 40 millions dans l'année et que tu te retrouves avec quelque chose comme 150 millions dans l'année, effectivement, on peut parler des joueurs qui partent, que tu n'arrives pas à vendre, etc. Mais ça correspond à quoi en termes de volume annuel de salaire? Un quart, un tiers de ces trois-là?
Alors, pour revenir, pourquoi j'ai changé sur le volet économique, c'est pour juste ce que j'ai dit au tout début. Il y a des problématiques différentes entre les Galactiques du Real et les Galactiques du Paris Saint-Germain. C'est pour ça que je suis parti sur le volet économique. Et là, je vois le message de Ricoba, prolonger, augmenter. Là est le problème. Je suis d'accord avec vous. Mais à un moment aussi, il faut se mettre à la place de Messi. Si je rapporte le temps à un club, c'est normal que mon salaire soit équivalent à ce prix-là. Tout simplement, moi, ça ne me choque pas qu'il demande à être augmenté. Moi, ça ne me choque pas qu'on donne ça 30 ou 40 millions à Messi au détriment des autres. Ces mecs-là rapportent beaucoup plus au club. Donc, c'est normal que le club les paye beaucoup plus en adéquation. Dans ces cas-là, ça voudrait dire que les 72 millions donnés à Mbappé, si le chiffre est bon, hein, ce qui est donné dans la presse, c'est délirant aussi.
Le souci, ce n'est pas d'en avoir un, c'est d'en avoir trois. Et à partir de là, tu vois, le fait d'en avoir trois, tu rentres dans une logique où c'est normal que tu aies un club qui surpaye. Et là, tu te retrouves avec un Skriniar qui fait... Alors après, ça reste à vérifier. Mais peut-être que ça va nous permettre de nous lancer sur le sujet. Un Skriniar qui demande X millions à l'Inter et X millions x 3 au Paris Saint-Germain. Voilà. Ça vient aussi du fait que tu en as trois. Si tu en avais un, tu avais une superstar que tu payais 50 millions à l'année, bah, les choses seraient différentes.
Non, on n'a pas encore fini avec le premier sujet de Reyes, parce que en fait, si on parle de ça aujourd'hui, c'est parce que les Galactiques au Real Madrid, ça a duré 6 ans. Et comme vous pouvez le constater, au Paris Saint-Germain, on est sur les 6 ans du début des Galactiques, entre guillemets. Si on fait le point, le Real a fait 2 saisons blanches en 2004-2005 et 2005-2006 avec les Galactiques. Donc avec quand même 6 joueurs, il y en a au moins 3 qui sont Ballon d'Or. Ils ont fait 2 saisons blanches d'affilée. La saison d'avant, ils ont juste gagné une Super Coupe. La saison d'avant, ils ont gagné la Super Coupe d'Europe, la Coupe Intercontinentale et la Liga. Et l'année d'avant, ils ont juste gagné la Super Coupe et la Ligue des Champions. Ils n'ont pas gagné le championnat. 2000-2001, ils ont gagné que la Liga.
Donc, c'était juste avant la vraie Galactique 2001. C'est l'année de rupture. Donc.
C'est ça. Donc, en fait, je vois qu'on tombe beaucoup sur le Paris Saint-Germain quand on perd des championnats face à Lille et face à Monaco. On se rend compte que même cette équipe avec de gros joueurs encore plus grands que ce qu'on a au Paris Saint-Germain, parce que nous, on en a peut-être 3 des Galactiques. Eux, je crois qu'ils en avaient 5 minimum.
Mais c'est pas la même aussi. La Liga et la Liga, c'est pas la même chose. Oui. Là, tu compares une Liga où il y avait Deportivo La Corogne, où il y avait Valence, où il y avait le Barcelone, où il y avait qui encore à cette époque-là qui était bon. Il y avait de gros noms qui étaient bons à cette époque-là, donc c'est pas les mêmes problématiques. Et juste, je voulais revenir sur l'histoire de Roi TV. Ouais, je me suis trompé avec MediaPro, pardon. MediaPro, c'était une année avant, donc je me suis trompé. Donc non, les droits TV sont renégociés en 2024. L'année prochaine, pardon. Pas cette année.
Ok, et il y a un autre problème qui est similaire et qui nous donne l'impression que les deux équipes sont assez similaires. Il y a une année où les Galactiques du Real Madrid, ils ont eu 3 coachs en une année. Et le gros problème qui sortait, c'est que le coach, il t'a dit, moi, je pouvais pas mettre les stars sur le banc. Donc là, je trouve qu'on en est au même point. Et
une différence essentielle, Nix, quand même.
Et comme je dis souvent, les erreurs du passé sont là pour ne pas les faire dans l'avenir. Moi, je trouve que les deux systèmes de Galactique sont assez similaires si tu sors du fait que c'est pas dans la même époque. Tout ce qu'on a mentionné depuis le début de l'émission, notamment, je crois que c'est Del Bosque qui se plaignait qu'il n'avait pas une assez grosse profondeur de banc parce qu'il avait grave des grosses stars. Mais derrière, quand il y en avait un qui était blessé, ça faisait exactement le délire quand tu passes de Neymar à Soler, là, le grand vide où ton joueur numéro B, en fait, il ne peut pas remplacer ton joueur A parce qu'il y a 4 galaxies entre les deux.
Bah, eux,
ils ont rencontré ce problème-là aussi. On parle des fessées que le PSG a pris en Ligue des Champions. Bah, faut pas oublier que le Real Madrid, avec ses Galactiques, ils ont pris 3-0 contre l'Olympique Lyonnais. Ils ont pris 3-0 contre le Barça aussi en Ligue des Champions. Ils se sont fait sortir par Monaco, les petits de Monaco. Ils se sont fait éliminer en 8e de finale par un Thierry Henry, comme d'habitude, magnifique. En fait, ce grand Real de Madrid qui, dans l'histoire, est au-dessus du PSG de maintenant, en fait, on se rend compte qu'il a eu pas mal de défaites et pas mal de pertes de titres et pas mal de saisons blanches. Donc, est-ce qu'on n'est pas garanti que le système ne va pas fonctionner dans tous les cas ?
Bah, le truc, pour moi, tu as très bien mis en avance tous les points communs. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de pointer les différences. La première, tu l'as nommée, c'est la durée. C'est-à-dire qu'entre le moment où le Real a commencé, un petit peu qui correspond à notre période où on a commencé, c'est Zlatan qui arrive, c'est Silva qui arrive, c'est Mota, c'est Maxwell, où tu as une espèce de période pré-galactique. Et le moment où ils ont arrêté, il s'est passé maximum 6 ans. Où ils ont su se remettre en cause. Et il faut, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas la même époque. Si tu veux, à l'époque, ils étaient en train d'inventer un concept. Le concept aurait marché à l'époque, tu as plein de clubs qui seraient mis à le suivre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, quand ça parlait des Galactiques, c'était « ouais, ils font n'importe quoi ». Mais, et puis une fois qu'ils ont commencé à perdre, ça a été « oui, mais ils font n'importe quoi ». Et nous, bah, on a ce retour d'expérience-là, on le fait après, on le fait dans une période où il y a clairement un chemin de succès sur le terrain qui est identifié, alors que ce soit sur les scènes domestiques, notamment je pense à City, je pense à Liverpool, que la notion de gegenpressing est celle qui a grosso merdo fait gagner en Ligue des Champions, pas forcément l'année dernière, mais sur les 4-5 années qui ont précédé, etc., etc. Et on réimporte un modèle qui a montré qu'il ne fonctionnait pas, on le poursuit plus longtemps. Et là, tout à l'heure, je voyais passer le message de Tom Soflaco. En effet, avec des joueurs comme Marquinhos, même si Marquinhos, Tomso, il gagne quand même vachement moins que les 3 que j'avais cités, que tu vas prolonger, que tu vas prolonger par principe, c'est-à-dire que tu continues dans la même logique et tu n'es pas prêt à te remettre en cause. Et la grande différence pour moi entre ce Real et le Paris Saint-Germain, c'est que le Real à l'époque tentait un truc qui a été critiquable, qui a été critiqué, etc., etc. Et ben nous, on reprend ce truc et on l'applique. Alors au début, c'était nécessaire. Dans un deuxième temps, bah, les chiffres ont donné raison. Encore une fois, le développement à l'international du Paris Saint-Germain, bah, maintenant, manque sérieusement le troisième temps qui est celui de la remise en cause. Parce que celle-là, on ne la voit toujours pas arriver. Et là, on n'est vraiment pas comme les Galactiques du Real Madrid qui, eux, ont su se remettre en cause.
Quelqu'un d'autre va ajouter quelque chose sur les Galactiques ou on passe au sujet Skriniar?
Bah déjà, je crois que c'est Dryas au tout début qui a bien répondu. C'est que déjà, les Galactiques, ce n'était pas que des Galactiques... dans une pointe offensive, en fait. T'avais aussi des joueurs qui étaient là aussi au milieu de terrain. Mais ce qui est intéressant, c'est de parler des Galactiques première génération. Si tu regardes bien, les Galactiques 2.0, tout a été corrigé. C'est-à-dire que lorsque Florentino Pérez et le Real Madrid insufflent le nouveau concept de Galactique, avec on a cherché Cristiano Ronaldo, etc., il y a des petites erreurs de casting comme Kaka ou autre, mais surtout, derrière, ils ont compris que c'était pas prendre des stars pour prendre des stars. C'était prendre des stars, oui, mais il devait y avoir une cohérence sportive qui devait être mise en place. Et au final, au Paris Saint-Germain, tu te rends compte que lorsque tu vas chercher Messi, c'est l'été dernier, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'été dernier qui vient. Ouais, c'est l'été dernier. Lorsque tu vas chercher Messi l'été dernier, bah, tu enlèves complètement le volet sportif de l'équation. Messi arrive avec 35 buts, arrive avec le ballon d'or. C'est vrai, on va pas nier ça. Mais tu te rends compte que bah, tu avais des problèmes à ce moment-là, parce que je vous rappelle que celui qui était sur le mercato des transferts avec le Paris Saint-Germain, celui qui était mis en relation avec Messi, c'était Pogba. Donc Pogba qui était aussi une star, mais qui répondait, entre guillemets, à un besoin sportif au milieu de terrain, le déficit que tu avais de technique et de physique que tu pouvais avoir au milieu de terrain. Et donc Pogba pouvait correspondre à ce déficit-là. Et je rends compte que finalement, on va chercher Lionel Messi à un secteur de jeu où potentiellement tu avais peut-être des manques, mais pas au point d'aller chercher Lionel Messi parce que tu avais déjà Neymar qui faisait tourner la mayonnaise. Et donc, tout est remis en cause. Tu avais déjà Neymar et Mbappé qui t'avaient empêché depuis 5 ans d'aller faire des all-in sur des joueurs, d'aller poser des gros billets sur certains joueurs par rapport au bilan comptable, etc., etc. Et là, tu vas chercher à Lionel Messi qui te fait encore un trou. Oui, le volet sportif, je suis d'accord avec vous, il n'a pas été étudié. Mais comme je dis souvent, le Paris Saint-Germain est aussi dépendant de ce volet-là pour pouvoir vivre et faire vivre son club.
Ah, avant de clôturer le sujet, j'ai oublié la question que Barry voulait nous faire répondre dans cette émission.
J'ai répondu.
Tu as répondu un peu? Bah, ils n'ont pas forcément donné leur avis si on devrait le faire ou pas.
Vas-y.
Bon, après vous avoir exposé tous ces problèmes-là depuis 28 minutes exactement, est-ce que vous pensez que c'est le moment de prendre une autre direction? Parce que là, on a sur la ligne, entre guillemets, la prolongation de Léo Messi. Est-ce qu'on continue dans ce système galactique ou est-ce que c'est le moment d'apprendre de cette histoire et de faire autrement pour les années à venir?
Bah, on va continuer pour on va continuer, mais on a tort. Voilà.
Basto.
Ouais, on a plus ou moins répondu. C'est le moment. De toute façon, on n'a pas d'argent. La meilleure manière d'en dégager, c'est de pouvoir vendre certains cadres qui ne répondent plus forcément aux besoins. Un Marquinhos, par exemple, sur 60 millions, un Kimpembe, on en parlera tout à l'heure, qui n'a plus qu'un an de contrat, est-ce que c'est pas le moment de le vendre? Mais il faut peut-être arrêter. Après, il y aura peut-être le départ de Mbappé qui va dégager du fric, mais par qui on va le remplacer? Est-ce que ce sera par une nouvelle superstar ou on va être plus intelligent? Je ne sais pas. Comme Dria, je pense qu'on va continuer dans un système qui ne marche pas, malheureusement.
Pour moi, c'est l'un ou l'autre. C'est soit Neymar, soit Messi. Et comme je l'ai dit la dernière fois, se séparer de Neymar cet été, ce n'est pas délirant. Tu récupères un chèque, tu libères de la masse salariale. Tu conserves Messi qui est à court terme, pour au moins 2 années, il sera encore performant. Et en plus, tu évites de perdre les deux pour que ton volet économique ne soit pas dans un flou et pour que tu puisses encore conjuguer à ramener des contrats. Donc pour moi, il faut vendre Neymar tout simplement pour récupérer un chèque et aller faire un...
Il faut y arriver.
C'est une illusion de vendre Neymar. Parce que qui serait prêt à recruter Neymar aujourd'hui? Neymar, ça, avec son image en termes de blessure et son image en termes de terrain, plus le salaire qu'il demande.
Plus un contrat long encore, hein, il reste 3 ans et demi.
plus ce personne.
Non, il a même une option.
C'est mort. Ah oui, 4 ans, il reste 4 ans, c'est vrai qu'il l'a
promis. Il a même une option.
C'est pas Neymar qu'il faut que tu peux voir partir. Ça, c'est fini.
C'est ça le truc. C'est qu'en vrai, des deux, malheureusement, Neymar, ça va être compliqué. Alors on sait que Chelsea était sur lui la saison dernière et c'était prêt à s'aligner sur les chiffres du Paris Saint-Germain. On sait aussi que Leonardo l'avait plus ou moins sous-entendu que le contrat de Neymar est dégressif. Donc son contrat va baisser. Est-ce qu'à un moment tu vas pouvoir avoir une fenêtre pour le vendre? J'espère. Au moins tu récupères un chèque et tu libères d'un masse salarial. Mais si cet été c'est impossible de faire partir Neymar et que là durant la discussion que tu as avec Neymar, tu fais comprendre que tu veux qu'il parte, mais Neymar n'a pas envie. Ça n'a aucun sens, et je répète encore aucun sens, de prolonger Lionel Messi pour garder les deux. Même si je peux comprendre l'aspect marketing et l'aspect économique que la prolongation de Lionel Messi va.
Et même limite l'aspect sportif, parce que tu as un Messi qui est en train de se réinventer, mais tu serais obligé de sacrifier ça à l'hôtel Neymar. Mais le truc, c'est qu'on connaît nos Qataris, Neymar va rester, puis Messi va rester, et on va chercher à prolonger Mbappé.
Et ce qu'annonçait
Recoba dans son message, Reco, gardons Messi ou Ney derrière un duo Mbappé Vlahovic, c'est sur la dimension offensive la solution la plus évidente compte tenu des contraintes qu'on a. Mais est-ce qu'on sera capable de la faire?
Il y a Tomso qui nous pose une question très intéressante. Il nous dit, mais pourquoi superstar égale mauvaise recrue?
C'est pas superstar égale mauvaise recrue. C'est qu'autour des superstars, il va falloir que tu aies des joueurs qui soient au niveau pour accompagner tes superstars. Il faut que tes superstars, et de toute façon, le foot, c'est pas un jeu individuel, c'est un jeu collectif. Alors des fois, de temps en temps, tu as des Fury Class qui vont créer des choses toutes seules. Par exemple, tu as un très bon exemple avec Mbappé en fin de saison dernière, quand après la Ligue des Champions, l'équipe a une pue de pas. Enfin, genre les passes, on n'en est même plus là. On en est en train d'apprendre à savoir marcher. Et tu as Mbappé qui va te gagner des matchs tout seul. Mais il y a un moment où quand tu vas rencontrer une équipe en face, quand tu vas rencontrer une bonne équipe en face, ce qu'il va falloir que tu lui opposes, c'est un collectif. Et pour que tu aies tes collectifs, il faut que tu aies effectivement des superstars qui vont être capables de créer des différences tout seul. Mais pour qu'ils les créent, il faut que derrière, il y ait un truc. C'est quoi une superstar? C'est un mec qui est capable de transformer un léger temps d'avance en un temps d'avance qui est encore plus important. Et si tu n'as pas ton léger temps d'avance avant, tu as ce qui se passe au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que tu as tes putains de superstars, pardon, excusez-moi pour le mot, tu as tes superstars qui sont obligés de revenir au milieu de machin, de créer ce petit temps d'avance, et après, il n'y a plus personne à la passer pour créer le temps d'avance supplémentaire. C'est superstar, ouais, c'est très bien, mais encore une fois, le foot, c'est un jeu collectif, ça ne joue pas à 1, ça joue à 11.
Non, mais le mot superstar n'est pas le problème, c'est pas la superstar le problème, c'est la cohérence sportive. Si tu vas chercher une superstar qui s'implante à un collectif car il correspond à un besoin, il n'y a pas de problème. Si tu vas chercher une superstar uniquement parce que c'est une superstar, en sachant que dans son style de jeu, tu as déjà quelqu'un qui le fait au Paris Saint-Germain, ça n'a aucun sens. On prend l'exemple encore de Neymar et Messi, ils occupent la même surface de jeu. Ils sont numéro 10 actuellement au Paris Saint-Germain. Un seul numéro 10 qui occupe toute la largeur du terrain, ce n'est pas délirant. Avoir deux numéros 10 qui se partagent une surface de jeu où un seul numéro 10 peut occuper, ça n'a aucun sens. Ça crée des bouchons. Alors aujourd'hui on va dire oui, mais regardez les stats, ils mettent des buts. Oui, c'est vrai qu'ils mettent des buts, mais c'est au détriment de tous les autres. C'est au détriment des Vitinha, des Ruiz, qui sont obligés de réduire leur impact dans le jeu parce qu'ils se disent y a Neymar et Messi qui, eux, ont un énorme volume de jeu et qui vont se retrouver dans ma surface de jeu. Il est là le vrai problème.
Ça pose un double problème en fait, parce que tu as une accumulation de stars dans la même zone de jeu, donc tu ne peux pas créer de collectif, mais c'est eux qui individuellement te font gagner. Donc si tu en sors un des deux ou les deux, vu que le collectif n'a pas été créé avant, tu te retrouves sans collectif et sans le mec qui peut te faire gagner. Donc tu ne peux pas les sortir. Donc tu t'en sors jamais.
Voilà, c'est la meilleure définition du Paris Saint-Germain maintenant. Merci Bastos. Il ne peut pas dire mieux que ça.
Même dans un vestiaire, ça bride certains joueurs qui s'empêchent de s'exprimer avec d'autres. Et donc, ça va être compliqué d'avoir trop de superstars comme ça. C'est très dur à porter. Le poids du maillot, il est très, très dur. Et Madrid a eu du mal à le faire. Et pourtant, on parle de Madrid, qui est une institution où lorsque tu arrives, tu as le poids du maillot qui rentre en compte. Paris, c'est autre chose.
Ok, les gars. Bon, après 33 minutes, on va essayer d'enchaîner sur le sujet suivant, qui est Milan Skriniar. Alors, il y a une question qu'on peut se poser sur le dossier Milan Skriniar. C'est probablement il va venir au Paris Saint-Germain, mais est-ce qu'on attend cet été ou est-ce qu'il vaut mieux payer les 20 millions ou 25 millions, je ne sais plus exactement combien que c'est, que l'Inter réclame pour le faire venir cet hiver? Est-ce que dans tous les cas, on se dit que cette saison, bon, on va être des merguez en défense et qu'on prépare tranquillement la saison d'après? Ou est-ce qu'il faut le faire venir, mais en plein chantier comme ça, en pleine saison, est-ce que, entre guillemets, on le mènerait pas vers sa perte parce qu'il serait pas adapté à tout le reste de l'effectif? Donc c'est la question que j'ai à vous poser aujourd'hui. Milan Skriniar, cet hiver ou cet été? Vas-y, Basto.
De base, j'étais plus pour attendre l'été et pas se précipiter parce qu'on n'a pas d'argent. Maintenant, on apprend que de toute façon, ça ne changera pas grand-chose puisque l'Inter demande 15-20 millions. Et dans ces cas-là, Skriniar, il n'y a pas de prime à la signature. Alors que si on attend cet été, Skriniar demande 25 millions à prime à la signature. Donc au niveau du prix, le faire ou l'hiver ou cet été, ça revient au même. Donc au vu des difficultés en plus de plus en plus grandes de notre défense centrale, que ce soit Marquinhos ou surtout Ramos, bah, faire Skriniar cet hiver puisque l'Inter a laissé la porte ouverte. Si on a l'argent actuellement, autant s'y engouffrer. Maintenant, pas à n'importe quel prix, pas à n'importe quel salaire non plus. Il faut voir ce que demande Skriniar. Mais c'est, je crois qu'il demande, ouais, il demande une quinzaine de millions d'euros par an. C'est...
Non,
9,5 et il touche moins de 5, c'est ça,
l'Inter. Moins de 4. Et s'il veut prolonger à l'Inter, il voudrait 4,5 avec l'Inter.
Non, l'Inter lui propose, selon la Gazzetta, l'Inter lui propose 6 millions plus bonus.
Après, il sait très bien que Paris est dans l'urgence d'un défenseur. Il sait très bien que Campos est sur ses côtes depuis 6 mois. Ils en ont parlé, donc lui, il a raison de le faire. Il a raison d'aller demander ça. Il sait très bien que le PSG lui donnera. Donc, de toute façon, on va le faire. On va le faire à un salaire qui me paraît élevé. Quitte à le faire, autant le faire cet hiver pour vu de nos problèmes.
Bah moi, je ne suis pas forcément d'accord. Je pense que dans les 9 millions, ça comprend aussi la prime à la signature qui serait échelonnée sur plusieurs années, comme on l'a fait avec Herrera, comme on l'a fait avec...
Ça paraît 25 millions prime à la signature plus 9 millions.
C'est pas ça, a priori. C'est 25 plus, ouais.
Oui, de ce que j'ai lu. Après, je pense qu'il y a des négociations qui vont être mises en place et je ne pense pas qu'il va tuer 25 millions de prime à la signature. Après, moi, ce que je pense, hein, c'est que le Paris Saint-Germain, sa prime à la signature, ils ne vont pas lui donner cash, ils vont l'échelonner sur son salaire. Donc, s'il arrive à 15 millions de salaire, il faudra prendre en compte aussi la prime à la signature qui sera dedans. Maintenant, 15 millions de salaire, arrêtons d'abuser aussi. Mais malheureusement, on se met à la place du joueur et il n'a peut-être pas forcément tort. Tu es dans l'urgence parce que tu as une échéance importante cette année. Et même si tu te dis que l'échéance urgente cette année n'est pas si urgente, bah finalement, l'année prochaine, tu seras toujours dans l'urgence parce que ta défense n'aura pas augmenté son niveau de jeu. Donc, il n'est pas non plus idiot. Et puis, le Paris Saint-Germain, il sait aussi que le Paris Saint-Germain a besoin de ce profil-là. Tu veux mettre en place une défense à 3, bah, tu vas prendre un taulier de la défense à 3. Pour moi, le salaire, comme je dis souvent, ça me concerne pas. Derrière, tu vas libérer Navas, je l'espère, s'il part. Et en plus, tu as potentiellement la prolongation de Ramos. Si tu vas chez Skriniar, Ramos, il s'en va, c'est sûr et certain. Donc, tu libéreras de la masse salariale. Maintenant, le salaire, c'est au club de négocier. Et puis, même s'il donne 40 millions, moi, ça ne me concerne pas, ils font ce qu'ils veulent.
Skriniar, moi j'ai des petites interrogations. C'est un joueur qui a pour moi deux immenses qualités. La première, c'est son impact physique. Il n'y a pas beaucoup d'attaquants qui gagnent des duels en un contre un une fois qu'il est bien placé. Et la deuxième, c'est son intelligence tactique, sa capacité à se placer, savoir quand se projeter, savoir quand rester, savoir quand être capable de couvrir son aile, etc. etc. Par contre, son grand défaut, c'est sa lenteur. Et ses qualités, elles sont vraiment mises en exergue dans une défense à 3. Elles ne seront pas forcément mises en avant. Alors, je sais qu'il a déjà fait des matchs dans une défense à 4, mais ce n'est pas là où, d'après ses qualités, il aura un point fort. Parce que toutes les passes en diagonale, quand il faudra revenir rapidement, et ben ça ne sera vraiment pas son point fort. Alors après, tu peux compenser ça avec ton autre décès, etc. etc. Néanmoins, le faire venir dans une cacophonie pareille, où tu essayes de trouver ton assise au milieu, ou ton assise derrière, où tu changes un jour, tu mets 6, puis là, puis une fois tu joues à 3, une fois tu joues à 2, une fois tu fais avec tel homme, etc., etc., etc. Ben, c'est comme tu le disais en intro, Onyx, moi j'ai très très peur d'une chose, c'est que tu arrives le joueur, tu ne le mets pas dans des bonnes conditions, tu le fais jouer à 3 pour commencer, puis finalement tu le fais passer à 2, le joueur n'y arrive pas, il se prend les supporters à dos, ensuite de ça la saison prochaine, ben, tu ne vas pas forcément développer un système qui sera adapté, à voir comment ça peut se développer et à voir comment ça peut se complexifier, et du coup je serais plus pour être dans le temps, c'est-à-dire pouvoir lui offrir une vraie préparation avec l'équipe plutôt que de le faire débarquer en milieu de championnat. C'est très compliqué de redébarquer en milieu de championnat. En général, il faut correspondre vraiment à un besoin spécifique et un besoin que tu peux nommer. Alors, on a un besoin en centrale, mais comment est-ce qu'on joue en centrale, on ne le sait toujours pas. Et ça pourrait tourner un petit peu allègre dans un premier temps, ce qui pourrait compliquer son intégration à long terme. Et du coup, moi, je serais bien plus favorable à l'idée de le prendre cet été.
Ok, bah merci les gars. Moi, je serais d'avis de suivre Dreyas parce que, en fait, je suis partagé parce que je sais qu'on a grave besoin de Skriniar pour le reste de la Coupe d'Europe de la saison. Mais je sais aussi, comme il a dit, que c'est tellement dangereux de le ramener dans cette équipe sans collectif. Et genre, direct, ça va commencer à envoyer des balles. Ouais, Skriniar, 15 millions, il arrive même pas à arrêter les attaquants, tout ça, il fait des bourdes et tout. Alors que le mec, il va arriver dans une équipe, elle a ni queue ni tête. Jusqu'à maintenant, c'est pas comment joue le Paris Saint-Germain. On est à 3 semaines du Bayern de Munich. On sait pas comment joue le Paris Saint-Germain. On sait juste à peu près qui est dans le 11, parce qu'en vrai, on n'a même pas besoin du coach pour savoir ça. Il y a 11 joueurs, ils ont été achetés. En général, c'est eux qui sont sur le terrain. Et merci, Jay, pour le don. C'est très gentil de ta part. Merci beaucoup. T'as un crack. Bah écoute, c'est Jay qui nous disait qu'il fallait passer au sujet suivant. On a peut-être assez parlé de Skriniar. On va parler de Galtier. En conférence de presse, il a dit on cherche un joueur de côté, grand, qui va vite, qui marque des deux pieds et fort de la tête. Alors, ça, c'est... Il avait dit que le PSG n'allait pas recruter tant que Sarabia n'était pas parti. Et une fois que Sarabia est parti, il a sorti cette phrase. Donc, selon vous, qui peut correspondre à cette demande du Paris Saint-Germain?
En centrale, Vlahovic, hein, mais ailier.
Joueur de côté.
Oui, je sais. Mais tu prends Léao qui correspond physiquement. Est-ce que Léao met des buts de la tête? Je ne suis pas sûr. Des ailiers qui ont des qualités de la tête. Enfin, pour moi, déjà, quand il donne sa phrase, en fait, il est en train de décrire deux postes dans un.
Les gars, Galtier, il troll hein, quand il dit ça.
J'espère, parce que moi je la prends.
Je crois qu'il troll, on lui demande le nom, il dit je vous en donnerai pas vos profils, et il dit bon de la tête, rapide, okay. Il marque des deux pieds, okay. etc.
C'est possible, parce que moi sur la définition, j'ai cru qu'il comprenait pas le foot en fait. Parce qu'un ailier bon de la tête, c'est pas ce que tu demandes à ton ailier, parce que ton ailier.
Après, sans troller, il a dit qu'il cherchait un ailier droit. A priori, des infos qu'on peut se faire poser, c'est un ailier droit qui serait gaucher, donc qui peut rentrer dans l'axe. Et qui serait pas en Europe, donc a priori ce serait quelqu'un qui est peut-être en âme sud, on verra. Mais
beaucoup d'indices. En soi, pourquoi pas. C'est si tu estimes que ton vrai besoin c'est d'avoir un remplaçant à tes trois de devant, effectivement, fais ce choix-là. Moi, les vrais besoins, je les identifie ailleurs, perso, et je pense qu'on aurait besoin, d'un titulaire au milieu, moi, mais bon, voilà.
Après, 15 millions.
C'est la problématique, mais c'est là où tu pourrais attendre Campos. Tu vois, par exemple, un pari à la Vitinha qu'on a encore moins anticipé au milieu. T'as Zahir Emery qui est en train de pousser, qui pourrait avoir du temps de jeu.
D'empiler un joueur de plus avec les Renato, les Ruiz, les Solaire.
Un joueur prometteur pour le coup.
Non, mais là, il faut le leader au milieu, c'est bon.
Je suis d'accord, mais tu l'auras jamais. Le pari que je fais par rapport au milieu, c'est que Zahir Emery qui commence à pousser fort. Si Solaire n'est pas en train de se réveiller, petit à petit, il va commencer à avoir du temps de jeu. T'as Vitinha, il a besoin de faire ce petit truc pour améliorer son taux de passe vers l'avant plutôt que son taux de passe latéral. Mais sinon, en soi, il n'est pas forcément si mauvais que ça. Et si tu en rajoutes un qui est très prometteur du profil de Vitinha dans les 20-21 ans, tu peux peut-être réussir à monter une sauce qui te mènera, par les jeux des concurrences, à avoir un milieu qui soit un peu plus cohérent. Mais par contre, aller recruter un ailier où tout à coup tu vas avoir un remplaçant, c'est-à-dire que c'est génial, tu remplaces un remplaçant par un remplaçant, alors que tu as des manques criants ailleurs, moi, c'est pas ce qui me fait envie, quoi.
Moi, je vois quelqu'un qui pourrait occuper le poste qui a joué à la Coupe du Monde, c'est Thuram, parce que Thuram, il l'a fait. Alors attendez, je m'entends parler. Est-ce que vous pouvez couper mon micro? Ouais, c'est bon. Marcus Thuram qui l'a fait durant la Coupe du Monde. Après, sur le cas des passes latérales, je suis d'accord avec Dreyas, sans être d'accord. C'est vrai qu'il devrait peut-être plus tenter des passes vers l'avant, mais s'il tente aussi beaucoup de passes latérales, c'est aussi parce que les équipes en face ont très vite compris que les forces du Paris Saint-Germain étaient dans l'axe et qu'il manquait une individualité forte devant. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils bouchonnent l'axe, ils nous laissent les côtés, et puis le Paris Saint-Germain ne passe très rarement sur les côtés. Et puis dans tous les cas, même si tu passes par les côtés, Nuno Mendes était blessé, donc tu as très peu de joueurs qui vont être sur les côtés et rentrer dans l'axe comme Nuno Mendes ou encore Mbappé peut le faire. Et il n'y a pas de centre qui va arriver dans sa phase de réparation, donc ils vont encore revenir dans l'axe. Et donc, ils bouchonnent l'axe. C'est pour ça que Vitinha tente pas mal des passes sur les côtés.
D'ailleurs, je le disais à l'époque, au début, la blessure de Nuno, Vitinha, c'est depuis la blessure de Nuno qu'il a commencé à baisser de pied, réellement.
Mais même Basto, tu parles de la blessure de Nuno Mendes, mais si tu regardes bien en début de saison, les passes de Vitinha, ils étaient très orientés aussi vers les côtés. Hein. Il tentait des fois balle au pied, il tentait de se projeter en avant parce qu'il y avait un peu plus d'espace et Neymar et Messi étaient moins vampirisés, moins jeux. Mais globalement, il tentait pas mal de passes sur les côtés. C'est même une chose qu'on avait loué. Mais ce qui ne nous dérangeait pas à ce moment-là, c'était qu'il y avait quand même un 3-5-2 qui était une certaine cohérence, c'est-à-dire une sorte de pivot gang, même si je pense que Mbappé n'était pas un pivot, qui libérait pas mal d'espace pour les mecs autour. Donc, passer sur les côtés, c'était pas forcément délirant. Aujourd'hui, on a changé de système. Et donc, là, c'est bouché. Il est obligé de passer par les côtés. Mais sauf que c'est parce que...
Il ne pas passer par les côtés et faire des passes latérales.
Je peux me laisser finir, s'il te plaît. J'ai fini. Je suis d'accord avec toi, c'est pas passer par les côtés. Mais quand l'axe est bouché, ça sert à rien de faire des passes vers l'avant. Tu vas trouver qui?
Je suis pas en train de dire que de faire que des passes vers l'avant. Je suis en train d'optimiser son taux de passe vers l'avant par rapport à son taux de passe latérale. C'est quoi? À l'heure actuelle, il est dans du 70-30 passe latérale. J'aimerais qu'il passe dans du 50-50. Et j'aimerais qu'effectivement, il y ait un petit peu plus de projection de sa part, etc. etc. pour effectivement amener le surnombre un petit peu plus haut. Mais c'est, on parle de micro-optimisation. On parle d'un joueur qui est en fin de post-formation. On parle d'un joueur qui a encore quelques petits défauts. Et ce serait cool qu'on ait une personne qui soit capable de le coacher justement pour franchir ce dernier pas. Et je pense que dans l'encadrement avec les adjoints, on pourrait avoir ça. Je ne suis pas en train de critiquer Vitinha, je ne suis pas en train de dire que c'est le pire du milieu. Je suis juste en train de dire qu'il n'apporte pas à l'heure actuelle assez de solutions pour être un titulaire à part entière club comme le Paris Saint-Germain.
Tu regardes Vitinha, Ruiz, au début de leur projection, ils ne le font plus parce que tu es tellement poreux derrière qu'ils sont obligés d'être en première rampe devant ta défense. Les mecs ne prennent plus aucun risque. Et c'est pas qu'une question, c'est une question aussi de personnalité de savoir le prendre de temps en temps, mais c'est aussi parce que s'ils le font à chaque fois, tu prends l'eau.
Je suis d'accord. Et c'est pour ça que c'est important de développer le répertoire de passes vers l'avant. À partir du moment où tu diminues ton ratio de projection vers l'avant, quand t'es le milieu, et d'autant plus le milieu le plus haut, si tu fais pas assez de passes vers l'avant, ton apport offensif va être beaucoup, beaucoup, beaucoup trop faible. Et moins tu peux avoir de projection, plus le fait que tu aies un nombre de passes vers l'avant devient super important. Et ça comprend bien sûr les passes vers les côtés. Hein. Une passe vers l'avant, une latérale qui va toucher un ailier, c'est une passe vers l'avant.
Sinon, okay, pour les recrues, moi je fais. Vas-y Barry, tu voulais parler?
Vas-y, je te laisse finir. Après,
je disais pour les recrues, moi je prends ni un remplaçant à Sarabia, enfin ça dépend ce qu'on ramène. Je prends ni remplaçant à Sarabia, ni milieu, je pense que je prends rien. On a un loft dont on a prêté la plupart des joueurs mais qui risque de revenir cet été. Si on crée un deuxième loft en parallèle, on va pas s'en sortir. On a déjà quelques joueurs qui sont arrivés cet été qui sont pas si loin d'un deuxième loft, donc faut arrêter de prendre des risques peut-être à un moment donné. Même c'est très bien les espoirs, les machins et tout, mais à un moment maintenant il faut du solide, du leader, et ensuite on fait autour.
J'entends Basto, mais tu peux pas les avoir malheureusement.
Et t'attends et tu penses pas cet hiver, et ça te permet peut-être de gagner 15-20 millions pour avoir au moins un, tu vois, cet été.
Tic-tac, on va passer la parole à Barry pour le sujet d'après.
J'ai même pas fini mon...
Ah, t'as pas fini, mais vas-y.
Alors, les passes latérales, les passes vers l'avant, c'est bien beau de parler des taux, mais comme je t'ai dit, si devant, tu n'as pas la possibilité de faire des passes vers l'avant, ça ne sert à rien de faire des passes vers l'avant. Ça correspond aussi à un problème de cohérence. On parlait tout à l'heure de la cohérence sportive, d'avoir Lionel Messi et Neymar sur un terrain, de ne pas avoir de numéro 9 qui va pouvoir fixer les défenses ou autre, forcément, les équipes en face, ils bouchent le max, et donc tu n'as pas de passe vers l'avant possible. Donc, c'est vrai que ce serait bien qu'il améliore ses taux, mais s'il n'a pas la possibilité de le faire, ça ne sert à rien de faire des passes vers l'avant. C'était tout ce que je voulais finir, ce que je voulais dire pour
Ok, moi, ce sujet, il manque un peu de peps et tout ça. On va essayer de rattraper les gens avec le sujet d'après. Barry, tu m'as parlé de quelque chose tout à l'heure, qui est sorti il y a 2 heures. Moi, je vois, selon 90 minutes football, la Juventus offre Dusan Vlahovic au Paris Saint-Germain. Les dirigeants de la Juve comprennent la position du joueur, il veut partir et ils sont prêts à le laisser partir. United, Chelsea, Arsenal et le Bayern ont également été informés. Alors Barry, qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Je pense que j'ai déjà un peu répondu, même sur mon propos juste avant. Il manque ce profil-là au Paris Saint-Germain. Et même au-delà du profil, déjà c'est le profil qu'il te faut. Mais surtout, c'est un buteur hors pair. si derrière, tu sais, demain tu perds, je sais pas moi, tu perds Messi ou Neymar, tu perds environ 20 buts dans la saison, bah, tu les remplaces par Vlahovic qui va te les mettre les buts et qui en plus au niveau de la cohérence sportive, tu cherches le profil que tu n'as pas. Pour moi c'est un grand oui, je le répète encore, c'est un joueur formidable, il est vraiment très fort. Il correspond vraiment à cette nouvelle génération de l'Euro 9 qui a compris les problématiques du football, du nouveau football et celle de l'ancien football. Pour moi, c'est le 9 moderne qu'il nous faut. Il est très très bon. Donc oui, c'est un grand oui. Et en plus, l'arrivée d'un Vlahovic va permettre de libérer certains joueurs qui sont bridés au Paris Saint-Germain. Je prends l'exemple de Fabien Ruiz, je prends l'exemple de Vitinha, je prends d'autres exemples encore. Ça va libérer pas mal de joueurs et puis ça va obliger les défenses adverses, que ce soit en Ligue 1 ou même en Ligue des Champions, à repenser la manière de défendre face au Paris Saint-Germain.
Comment dire non à ce profil-là? Le mec, il a, comme l'a dit Barry, il a toutes les qualités. C'est à la fois le joueur de tête et le joueur qui est physique, capable de jouer en pivot, en mode neuf à l'ancienne. Et en même temps, c'est un mec technique et qui plante. Enfin bon, bref, ne pas vouloir un tel joueur, ce serait. Enfin, ouais, pour moi, je pourrais pas comprendre qu'on puisse ne pas vouloir un tel joueur. Après, la problématique, c'est si t'en as aucun des trois de devant qui part, pourquoi est-ce que tu le prends? Parce qu'à ce moment-là, ce serait, pour reprendre une expression qui est bien franca, oui, jeter du caviar au cochon, quoi. C'est, ça sert à rien, quoi, à un moment. Il y a un moment où il faut que, quand tu prennes une joueur, tu les inscrives dans une cohérence sportive, dans une cohérence de plan de jeu. Réco était en train de donner la solution tout à l'heure. C'est effectivement, si dans l'idéal, tu peux l'associer avec Mbappé, surtout que tu pourrais vraiment fantasmer sur ce duo, il y aurait de quoi dire, on pourrait retrouver version upgradée plus le duo Mbappé-Falcao de Monaco qui marchait si bien. Faut foncer. Mais à ce moment-là, tu ne peux avoir ou Messi ou Neymar, parce que si tu as les deux dans ton équipe, ça, tu le verras jamais. Après, dans la news, il y a quelque chose qui me fait beaucoup rire, moi. C'est la Juventus donne Vlahovic au Paris Saint-Germain. Ça veut dire quoi, donne?
La fois est plus longue. Déjà, la Juventus a proposé Vlahovic au Paris Saint-Germain. Par contre, ils veulent récupérer la mise qu'ils ont mis. Eux, ils ont payé 70 millions plus 10 de bonus. Donc, eux, ils veulent récupérer au minimum les 70 millions.
N'empêche, le community manager, quand il met le titre, parce que moi, le titre, je l'ai vu, c'est donne. Et je pense que le community manager, il n'était pas en forme. Voilà, je voulais juste vous dire ça.
Basto.
Le problème, c'est que la Juve ne propose pas qu'au PSG, mais propose notamment à Chelsea, qui est déjà sur l'affaire. Et nous, on n'a pas vraiment de manne financière. Et la Juventus n'est pas bête. Ils savent qu'avec leurs soucis financiers, il y a un risque. Pour moi, ils ont eu 15 points de pénalité, mais c'est que la décision de la Ligue de football. Il n'y a pas encore la décision administrative et financière. Il y a un risque de relégation de la Juve. Et là, Vlahovic coûtera sûrement moins cher. Donc la Juve est aussi fait son jeu et propose dès ce mercato d'hiver. Et dans ce mercato d'hiver, le PSG ne peut pas, n'a pas la manne financière de l'acheter. Donc évidemment, c'est le profil parfait, mais on part de trop loin. Donc je ne vois pas comment on peut le faire. Alors il y a quelqu'un qui propose aussi Mitrovic, qui est aussi un attaquant pivot dans la fleur de l'âge, 28 ans, qui marque quasiment un but par match depuis 2 ans, qui est un très très bon joueur, pivot qui prend. Mais pareil, dans le championnat anglais, Fulham qui est 6e, ils n'ont pas besoin de thunes, à mon avis, ça coûte cher aussi. Ouais.
Bon, moi, j'ai plutôt l'impression qu'ils vont faire l'idée qu'ils ont essayé de faire cette année. C'est-à-dire que je pense que la Juventus ne lâchera pas Vlahovic cet été. Je pense qu'ils vont lâcher cet été parce que au cas où déjà la Ligue, je crois qu'elle rend leur décision au mois de mars, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble, hein, avril ou mars dans ces eaux-là.
Leur première conclusion en mars, ouais.
Voilà, en mars, il me semble. Donc ce qui veut dire que la Juventus, déjà, va perdre 15 points. Ils ne vont pas perdre leur buteur et risquer de finir, au cas où la Ligue les maintient en Serie A, risquer de finir 17e, voire 18e ou autre. Tu perds ton agilité forte, ça va être très compliqué d'aller la chercher la place qualificative en Coupe d'Europe pour l'année prochaine. Donc je pense pas qu'ils vont le vendre cet été. Donc je pense pas qu'ils vont le vendre cet hiver. Je pense que c'est pour cet été. Et cet été, je pense qu'on va reprendre la même idée qu'on a fait cet hiver, c'est-à-dire tout tenter pour se libérer de Neymar, pour ensuite récupérer Haché qui va permettre d'aller chercher Vlahovic. C'est ce qu'ils voulaient faire avec Lewandowski. Moi, c'est mon idée. J'ai l'impression que c'est ce qui va être tenté.
Là, on espère.
Parce que si Messi, on veut le prolonger, ça c'est sûr. On a vu encore l'info là qui vient de sortir.
Ah oui, non, mais c'est quasiment fait, Messi, ça va être annoncé avant cet été.
Et à ce moment-là, la question qui se pose, c'est pourquoi tu vas chercher Vlahovic? Voilà. Et c'est alors que Vlahovic, c'est le mec qu'il faut aller chercher. Parce que si tu as Messi, Neymar qui reste et Mbappé que tu vas prolonger un an, c'est quoi? Tu vas prendre Vlahovic?
Ah non, mais tu peux pas prendre Vlahovic en départ de Neymar. Hein.
Eh ben oui.
C'est ce que dit Barry.
Ah oui, non mais c'est moi je rebondissais par rapport à ça. C'est-à-dire que si tu prolonges Messi alors que Neymar a un contrat qui est impossible à refourguer à moins de menacer de le couler dans du béton, prendre Vlahovic, ça servira à rien.
Après, c'est des infos qui font que, et apparemment, là, j'ai vu une info là, avant-hier, que Neymar aussi commence à être un peu saoulé par comment dire, par ce qui se passe à Paris et qu'il a envie d'ailleurs. Et que Chelsea était sur le dossier l'année dernière. Donc on ne sait pas, à voir.
Après, à voir. On peut fantasmer, mais faut être conscient par rapport à Ney, qu'il y a le dossier les blessures et il y a le dossier l'image du joueur. C'est une image quand même qui est complexe, qui n'est pas si simple à gérer, qui n'est pas si simple à gérer dans un vestiaire, qui n'est pas si simple à gérer vis-à-vis des médias. Il y a souvent des histoires, des etc., etc., etc. Et tu prends les blessures. À ça, associé à un mec qui va falloir que tu craches pour lui 40 millions minimum par an pour pouvoir te l'assurer, ça fait complexe, quoi. Ça fait beaucoup.
Et puis aussi, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de avoir. Soit tu as déjà un accord avec le joueur pour y gérer, on va te libérer cet été, donc commence à trouver un club. Soit tu l'as pas, mais tu peux pas te dire que oui, on va chercher Vlahovic en espérant que Neymar parte. Non, c'est pas possible. Parce que si Neymar reste, Vlahovic vient, je pense que Vlahovic, son salaire, il va être aux alentours des 20 millions. On connaît Paris Saint-Germain, donc 15 ou 20 millions. Donc tu vas encore te rajouter un problème et encore et encore et encore. Tu n'as toujours pas libéré ton loft, comme le disait Basto juste là. Donc non, il faudra un moment penser cohérence. Mais j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain va encore tout tenter pour se libérer de Neymar. On le voit, on sent que Neymar, il n'a plus l'apport qu'il avait de cette direction.
Non, mais c'est quand même quelque chose de fou d'avoir un joueur qui a 30 ans et qui est censé être l'un des meilleurs joueurs du monde et personne ne veut l'acheter. C'est un truc de fou. Mais salaire ou pas salaire, il est quoi, 35 millions, Mbappé, il a 72. Et pourtant, il y a des gens qui veulent acheter Mbappé à 72.
Mais pour le déloger, tu te mets dans l'aspect du joueur, pour le déloger, il faudrait un contrat qui corresponde aux années de contrat qu'il a avec le Paris Saint-Germain et un salaire qui corresponde avec ce qui touche au Paris Saint-Germain. Je te rappelle qu'au Paris Saint-Germain, il y a une logique que les gens ont oubliée, c'est que lorsque Neymar arrive, il arrive avec ses 100% de ses droits d'image. Ça, les gens ont souvent oublié. Tu vois, pas, aucun club ne t'offre 100% de tes droits d'image. Ils ont fait la même chose avec Mbappé. Et les gars, c'est compliqué d'aller chercher ce contrat-là. C'est compliqué d'aller trouver un club qui, un, te donne ton salaire, deux, te donne tous tes droits d'image, et trois, te donne le nombre d'années de contrat que le Paris Saint-Germain t'a offert.
Sur un plateau d'argent. On a du mal à vendre Navas, alors qu'est-ce que tu veux vendre Neymar, quoi,
Je voulais juste vite faire répondre à Vincent, qui disait que Vlao et Mbappé, et avec Messi derrière, c'était pire. Alors oui, en soi, si tu veux, par rapport à Ney, si tu tombes sur bon match où Ney a envie de se bouger les fesses, ce que tu dis va être vrai. Mais faut pas oublier que pour le coup, Vlahovic, lui, les courses, il les fait. C'est pas quelqu'un qui est avare en course. Et quand tu as ce trio-là, la grande différence, c'est que c'est un trio qui est très axial. Tes latéraux vont devenir super importants. Mais ce que je veux dire, c'est que l'impact défensif, il est surtout au niveau de l'axe. Alors que quand tu as les trios écartés comme on l'a aujourd'hui, c'est juste que tu as zéro ligne avant, en fait. C'est pas tout à fait pareil et ça n'a pas tout à fait les mêmes incidences à mes yeux.
Bon, il nous reste encore trois sujets à aborder. On est quasiment sur une heure. Moi, je voulais parler du centre de formation. On sait que à la rentrée, le maire de Poissy, il a dit qu'on va probablement emménager à Poissy. On voit plein de choses, entre guillemets, qui montrent que ce serait peut-être le bon moment de miser un peu plus sur le centre de formation. On voit l'attractivité de l'APL, parce qu'en 2007, on a réussi à attirer Neymar et Mbappé. Mais est-ce qu'en 2023, avec tout le monde qui veut aller en PL, on le voit dans tous les derniers transferts qu'on a essayé de faire, quasiment tous les gros joueurs veulent aller jouer en PL. Est-ce qu'on va réussir à attirer le prochain Neymar, le prochain Mbappé? J'en suis pas sûr. Autre question, ce qu'on voit au niveau des jeunes, pour l'instant, on voit Zaïre Emery et Gerbi, même, on voit qu'il y a quand même du potentiel. On voit, troisième chose, que le Paris Saint-Germain n'a pas une grosse marge niveau financière pour aller acheter des joueurs. Donc, moi, ce que je me dis, c'est que la seule chose qui reste au Paris Saint-Germain ici, c'est toutes les pépites qu'on a dans le centre de formation. Certes, ça ne va pas être facile, entre guillemets, de les intégrer tous en même temps, ce n'est pas possible. Mais est-ce que par saison, on ne devrait pas en intégrer deux et progressivement miser un peu là-dessus pour sortir du marasme financier dans lequel on est?
Tu peux en intégrer, tu peux rentrer dans une logique où tu en intègres deux par saison, mais après les jeunes, ça ne s'intègre pas. C'est-à-dire que tu ne te retrouves pas avec deux titulaires, il faut y aller dans d'une manière progressive. Mais y a une chose par rapport à ce que tu dis qui est, on est toujours un peu dans le fantasme de la Masia ou même de ce que Lyon a fait. Il faut vraiment être conscient que quand tu rentres dans ce genre de logique, t'es très dépendant d'avoir une bonne génération. Si tu as une bonne génération, bah ouais, tu roules sur l'or, tu es le roi du pétrole, etc. etc. Mais bah, 4 ans après, bah, ta génération n'est plus aussi bonne, il y a des joueurs qui sont partis, etc. etc. et tu as énormément du mal à t'en remettre. Tu es condamné à essayer de trouver un équilibre. Alors oui, les joueurs veulent aller en première ligue, mais là-dessus, le Paris Saint-Germain reste, et ça c'est encore une fois, faut le souligner, ça a été fait sous Nasser, surtout par Blanc, mais ça a été fait sous Nasser. Le Paris Saint-Germain a une image extraordinaire à l'international, c'est-à-dire que en soi, c'est vraiment un club connu. Et donc, on continuera de garder une attractivité, quoi qu'il advienne, à moins que sportivement, on soit vraiment relégué très, très bas. Mais pour moi, tu es obligé de trouver un équilibre. La grande difficulté, c'est d'essayer de trouver un équilibre. C'est d'avoir une politique cohérente par rapport à des jeunes. Moi, ce que j'appelle avoir une politique cohérente par rapport à des jeunes, c'est un temps de jeu qui augmente par semestre. C'est quoi ? Ça va être peut-être 200 minutes le premier semestre. Ça va être 500 minutes le second semestre si le jeune a validé le premier semestre. Ensuite de ça, tu passes de 500 minutes à bah, littéralement remplaçant la saison d'après. Mais c'est y aller petit à petit. Et tout ça, ça nous en a une logique. Alors peut-être qu'on va réussir à le mettre en place. Mais encore une fois, et c'est vraiment très important à garder en mémoire, c'est il suffit de regarder ce qui s'est passé avec la Masia et avec les jeunes de Lyon. C'est que tu es très dépendant d'avoir une bonne génération pour vraiment te développer de cette manière-là. Et sinon, tu vas. Enfin, il y a forcément un moment, si tu n'as que ce ressort-là, où tu vas aller dans le mur.
Bah, je suis d'accord avec Darius. Après, je pense que l'idée de développer ce centre de formation, de toute façon, comme je dis souvent sur une génération, tu n'auras pas 15 joueurs qui vont devenir professionnels. Donc ça veut dire qu'essayer de garder potentiellement les meilleurs. Donc il y en aurait 2-3 et puis après tout le reste, les vendre. Comme l'a fait Lyon, comme l'a fait autre. Donc je pense qu'il y a une volonté aussi économique au long terme à changer le modèle économique du Paris Saint-Germain qui est basé actuellement sur le marketing, etc. Revenir sur un modèle classique de Ligue 1, mais à grande échelle. C'est-à-dire que tu aurais des stars que tu serais allé chercher sur le marché des transferts qui permettront aux petits jeunes de s'implanter à cet effectif. Les meilleurs restent dans cet effectif et les autres, tu les vends. Donc c'est une stratégie au long terme qui pourrait être intéressante. Et puis surtout, au vu du vivier de talent que tu as dans la région parisienne actuellement, ah, si tu as le nouveau Neymar, si tu as le nouveau Mbappé, il sera dans ton rang et il sera affilié à ton club et ça pourrait être encore plus bénéfique au Paris Saint-Germain. Donc je pense que cette vision elle est plutôt dans ce sens-là. Parce que si vous vous attendez à avoir une équipe de Titi parisien qui va gagner la Ligue des Champions, etc., les mecs, c'est arrivé très très rarement dans l'histoire. Si vous êtes encore sur le prisme de Guardiola avec le Barça, les gars, calmons-nous. C'est arrivé, je crois, avec l'Ajax à l'époque, c'est arrivé avec le Barça. Mais si vous regardez bien toutes les équipes qui ont gagné la Ligue des Champions, il n'y en a pas tant que ça qui sont uniquement formés au club. Ça va être très compliqué de réussir à mettre ça en place. Donc je pense que c'est une idée économique plutôt, et surtout l'idée de développer aussi la région. Je pense que c'est des accords qui ont été mis en place avec la région.
Mais moi je parlais pas à très long terme. Moi je parle de en fait dans les 2-3 ans à venir, parce que là le PSG n'a pas d'argent. Je sais pas, parce que tous les jours sur les réseaux je vois des trucs ah oui, il faut recruter Guardiola, faut recruter un tel. Les gars, on n'a pas d'argent.
Oui, ce que dit Barry, c'est une double raison. C'est t'as pas d'argent, donc t'as des jeunes les plus forts qui peuvent rentrer en équipe première, qui coûteront moins cher que acheter quelqu'un à 15-20 millions qui n'a pas forcément un niveau adéquat. Et en même temps, les mettre en valeur dans le lot, ça permet chaque été d'aller en vente. Je me souviens de Riquet qui avait vendu Zach Rekins, qui avait vendu Augustin une vingtaine de millions, les Nzoki, des joueurs de ce niveau, on en a et on peut les vendre. Et si on n'a pas d'argent, si on ne trouve pas de vente, si on n'arrive pas à vendre nos joueurs, les jeunes, c'est plutôt facile à vendre. Et les jeunes, c'est ce qui coûte le moins d'argent. Donc investir dans le centre, comme on l'a fait à Poissy, c'est, comme le dit Barry, je pense, une question économique. Et tant mieux s'il y en a qui, en plus, arrivent à s'intégrer dans l'équipe titulaire.
Et même si tu ne le vends pas, tu as le bonus à la formation qui rentre en compte. Et puis, une stratégie au long terme n'est pas forcément pas en adéquation avec la stratégie à court terme. À court terme, demain, tu as ton centre de formation, tu as un petit jeune de 14-15 ans, dans un ou deux ans, s'il est bon et qu'il pète ailleurs, je sais pas moi, il a 18-19 ans, tu peux le vendre. Donc, une stratégie au long terme, c'est pas forcément en inadéquation avec ce que tu dois faire à court terme.
Je voulais juste faire deux petites remarques.
Attends, Vincent, ouais. Juste pour te répondre, tu vois bien que même ces 100 millions là, on les a pas payés la même année, et Kitiki, on va le payer cet été. Donc tout ça n'a pas coûté 100 millions déjà. Et je ne serais pas étonné que dans les autres, c'est étalé aussi sur plusieurs années.
Et ensuite, je viens de voir un commentaire positif. Comment on n'a pas d'argent et le Qatar? Eh les gars, le Qatar n'injecte plus d'argent. Dès que tu injectes de l'argent, tu te fais sucrer à chaque fois par l'UEFA. Faut arrêter ce fantasme d'histoire de le Qatar injecte. Les gars, c'est pas une entreprise lambda, hein. On parle de football. Si le Qatar a envie justement de vendre 15% du Paris Saint-Germain, c'est aussi de récupérer un chèque qui va pouvoir être réinjecté. On ne peut pas injecter de l'argent comme ça avec les pertes financières, etc. C'est très incompétent dans le football. Donc n'hésite pas, et le Qatar. Aujourd'hui, là, on parle du Paris Saint-Germain, le Qatar n'existe plus de Z.
Ouais, moi je voulais juste réagir à deux petits trucs. Quand Shaoui DZ dit Porto, ouais, sauf qu'on n'est pas Porto, on n'a pas la même visibilité que Porto, on n'a pas le même regard des médias locaux. Alors les médias locaux, Porto, ils vont les avoir, mais des médias un petit peu plus globales, on n'a pas une image à gérer de la même manière. Et ce qui se passe dans le vestiaire du Paris Saint-Germain arrive dans le monde entier. Ce qui se passe dans le vestiaire de Porto n'arrive pas dans le monde entier. Tu ne peux pas avoir du tout la même gestion. Et enfin, je voulais rappeler un fun fact, c'est que Kylian Mbappé était formé en France. Kylian Mbappé a été vendu au Paris Saint-Germain parce qu'il a fini sa formation à Monaco. Alors ça peut justifier parce qu'on n'avait pas de centre d'entraînement, mais il faut vraiment avoir conscience d'un truc, c'est pas parce que tu as le meilleur centre d'entraînement, que tu as les meilleurs trucs, que tu vas forcément avoir les bons joueurs. Et je réponds un peu plus au long terme par rapport à ta question, Nyx, mais j'insiste sur un truc, c'est oui, on est obligé de passer par là, mais tu peux pas te baser que là-dessus parce que tu étais en train de dire qu'ils veulent tous partir en Première Ligue, parce que dans ce cas-là, tu es dépendant de ta génération et c'est aller au mur. Lyon l'a très bien montré.
Après
Marcel a montré.
On a le nouveau centre, on a un nouveau directeur sportif du centre, on a une nouvelle restructuration. J'espère qu'il y a un nouveau mode de fonctionnement aussi. Parce que autant c'est bien Zaïre Emery, El Shaddai, ce groupe élite, c'est déjà bien, mais on a un joueur, par exemple, comme Kari, dont tous les observateurs disent que c'est un super joueur, il commence déjà à avoir 19 ans, il est bloqué par Zaïre Emery au même poste qu'à 3 ans de moins, et qui est là dans des U19 où il est trop fort pour ce niveau, et qui en même temps n'a pas de minute en pro. Donc si un joueur comme ça, tu ne peux pas lui promettre un projet, soit en le prêtant, soit en faisant comme Monaco a fait avec ses U19, en créant une structure qui fait qu'il joue des matchs à l'étranger contre des équipes anglaises, des grosses équipes anglaises qui leur permettent de progresser et qui sont au-dessus d'un niveau U19, et Monaco n'a pas de CFA non plus, donc c'est ça peut comparable à nous qui avons supprimé cette Nationale 2. Tant que tu n'as pas ça, il y a certains jeunes qui vont être bloqués. Et ces jeunes, il faut aussi les mettre en valeur pour pouvoir les vendre, ceux-là, ceux qui sont bloqués dans leur catégorie.
On est infiniment d'accord, hein, Basto. C'est juste par progression, par palier. Non, moi, non, je suis juste en train de dire 200 minutes un semestre, 500 minutes le semestre d'après. Si, en gros, tu sais, c'est comme par module. Tu as un premier module, alors peut-être le premier module, c'est même 100 minutes. Le deuxième module, ça va être 200 minutes.
L'exemple que je te citais, c'est un carré, il ne peut pas les avoir.
Mais ça, je suis d'accord, parce qu'on a recruté 10 000 joueurs qui sont d'ailleurs des joueurs qui ne devraient pas forcément tout le temps être titulaires. Alors, cette année, c'est moins identifiable que d'autres années, mais bah, rappelons-nous les Krikoviak, les Stambouli, les consorts, etc., qui font que tu ne peux pas avoir cette logique. Tu dois avoir des titulaires, tu dois avoir... Enfin, il y a un moment où il faut trouver un équilibre. Ce n'est pas évident à trouver parce que tu n'as que 18 joueurs à placer, mais en plus, il faut se rappeler un truc, c'est que si tu arrives à placer des jeunes sur ton banc, c'est multo bueno pour la Ligue des Champions parce que du coup, tes listes, tu les as assurées. Quoi. Mais voilà, c'est un équilibre à trouver entre les mecs qui... Un, les stars, l'expérience, les remplaçants qui sont prêts à rentrer tout de suite, et les jeunes, et c'est pas une équipe qui est facile à trouver, mais c'est un taf à faire, et c'est un taf qu'on fait extrêmement, extrêmement mal. Et Shaoui, ouais, j'entends, mais encore une fois, quand tu es au Paris Saint-Germain, tu peux pas comparer avec Porto, en fait, ça n'a juste rien à voir.
Vas-y.
Sur le Kakari, il a été prolongé, donc je pense que le Paris Saint-Germain aussi a vu qu'il avait du talent, et en plus je crois qu'il a joué le dernier match, non, si je dis pas de bêtises.
Il a joué 15 minutes dans le match.
Oui, non, mais je pense que le Paris Saint-Germain va commencer à la compter de plus en plus. Alors oui, actuellement, les maximums des ressources sont mis sur Warren, c'est une réalité, parce que voilà, de tous les observateurs, c'est un joueur prêt, et même physiquement, mentalement, ça se voit. Maintenant, Kari, il a sa place à jouer. C'est à lui de montrer au coach qu'il a faim. Je voulais juste revenir sur la notion d'économie juste avant. En fait, c'est pas que le Paris Saint-Germain n'a pas d'argent. Le Paris Saint-Germain a de l'argent. Sauf que l'argent qui rentre...
C'est pas d'argent pour investir sur les joueurs.
Pour investir. C'est que l'argent qui rentre, tu es obligé de le mettre dans les masses salariales ou autres, dans tous les flous. T'as 300 millions, comme le disait Basto, de trous économiques au Paris Saint-Germain que tu dois rembourser. Et t'as potentiellement 30 millions qui est comme une épée de Damoclès de l'UEFA par rapport à ta masse salariale qui n'est pas dans l'adéquation avec le nouveau fair play financier. Donc c'est là le problème de l'argent, c'est pas que tu n'as pas dosé tout court, c'est que tu as dosé, mais il est mis autre part.
Ok, on va essayer de ne pas passer beaucoup de temps là-dessus. Il y avait une info sur Kimpembe comme quoi, parce que son contrat il se termine en 2024. Donc là, cet été, c'est soit on le prolonge, soit on le vend. Il y a des rumeurs comme qui ont commencé la saison dernière qui disaient que Kimpembe il a envie de voir ailleurs. Est-ce que là, c'est pas le bon moment que les deux parties ils se séparent parce que lui, il a peut-être envie de voir ailleurs et peut-être que côté PSG, il a atteint un plafond. Je sais pas, je posais la question. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait prolonger Kimpembe, d'autant plus qu'il demande le même salaire que Marquinhos, il me semble. Ce serait du 14 millions, si je ne me trompe pas. Selon les infos, je n'ai pas, l'info précise. Barry, je t'écoute là-dessus.
Est-ce que faudrait le conserver? Moi, je suis pour le conserver. Après, je pense qu'il y a une forme aussi de négociation qui est mise en place. Et je pense qu'il y a une sorte de pression qui est mise sur Paris Saint-Germain pour accélérer sa prolongation. Je pense pas qu'il a envie d'ailleurs. Après, je peux me tromper, hein, mais je pense que Kimpembe est très attaché au Paris Saint-Germain et qu'il a envie de devenir le capitaine. Maintenant, il faut lui faire confiance, il faut lui donner ce qu'il mérite. Moi, les histoires de salaire, je pense qu'il demande le salaire de 14 millions. Bon, au vu de ce qui se passe autour, c'est peut-être pas forcément délirant. C'est un cadre, il est en dessous des joueurs qui viennent d'arriver, je crois qu'il est en dessous de Wijnaldum ou autre en termes de salaire. Donc, c'est normal qu'il va demander un salaire équivalent à son attachement et au nombre d'années au club qu'il va demander. Donc, 14 millions, c'est peut-être pas forcément délirant. Si tu donnes 15, 20, 25 millions aux autres, tu dois lui donner 14 millions. Maintenant, oui, ça ne rentre pas dans ta masse salariale, mais c'est le Paris Saint-Germain qui a joué à ce jeu-là aussi. À un moment, c'est un des quatre de ton équipe et il est en dessous des mecs qui ne sont même plus au club. Mettez-vous à sa place. Évidemment, le gars va dire, attendez, c'est dingue ça. Comment c'est possible? C'est logique. Maintenant, le voir partir, non, moi, je n'ai pas trop envie de le voir partir. Je préfère le garder ici. Je pense que c'est lui, c'est un symbole.
Bon, les plaisante.
C'est un... Quoi? Même pas, rien à voir avec ça. Franchement, rien à voir avec le fait qu'il soit congolais. C'est surtout, je parle juste de l'aspect Paris. Juste de l'aspect Paris, il représente quelque chose pour nous. Il représente la réussite des jeunes vers le groupe pro. Il représente plein de choses. Donc moi, j'ai envie de le garder. Et en plus, il est performant. Donc c'est à mon sens de faire partir.
Vincent, ta question, je sais pas trop, je sais pas si un d'entre vous a la réponse après
en soi, ça change pas grand chose. Hein. C'est de l'argent que tu lui donnes, quoi.
Non, la prime à la signature, tu peux les sonner. Tu peux pas les sonner.
Okay. Pour Kimpembe, il y a une question qui revient sur Kimpembe, qui se pose. C'est qu'en est-il de son corps? Le mec, il a joué pendant pas mal de petites périodes, mine de rien, sous infiltration, etc., etc., etc. Et depuis, il enchaîne les blessures méga vénères. Il est allé peut-être trop loin avec son corps et on a du mal à le voir revenir et à le voir revenir sur une longue période.
L'info d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit. Hein. En fait, il a une blessure au talon d'Achille qui traîne depuis l'époque Tourelle. Ils l'ont fait jouer sous infiltration à chaque fois pour qu'il puisse retrouver Kimpembe.
C'est son côté guerrier qu'on aime bien, qui fait qu'il ne va jamais refuser de machin, même des fois quand il est diminué, il n'hésite pas à jeter, etc. etc. Du coup, t'en arrives à te demander, est-ce que c'est un joueur fiable? Est-ce que c'est un joueur sur lequel tu pourras compter? Maintenant, pour revenir à ce que disait Barry, c'est moi, j'aimerais qu'on sache se laisser partir les joueurs parfois. C'est une réflexion qui va au-delà de Kimpembe, c'est une réflexion qui pourrait aller sur Marco Verratti, qui pourrait aller sur vraiment tout un tas de joueurs. C'est ce côté de, c'est bon, tu fais partie de la base, tu seras là, tu es dans la famille, tu seras là jusqu'à la fin de tes jours et tout. Non, le foot, c'est une entreprise commerciale, c'est du business, c'est machin, c'est bidule, c'est pas famille, machin. Faut arrêter avec le côté famille. Après, qu'il y ait un lien avec Kimpembe, parce que c'est un titi, ça je ne le nie pas, mais s'il a envie d'aller voir ailleurs, s'il a envie... Comme tu l'as rappelé, pour moi, un exemple, il y a comme un espèce de plafond de verre, c'est-à-dire qu'on a un Kimpembe qui par moment, est le central le plus performant, mais il a du mal à allier ces deux qualités. C'est-à-dire, des fois, on a un Kimpembe qui est très très bon dans la relance et qui va apporter un surnombre de manière intéressante, et des fois, on a Kimpembe le guerrier. On a du mal, des fois, à avoir les deux, et en tout cas, on n'a pas les deux sur une saison, et il y a quelque chose qui bloque, et ça fait plusieurs années que ce palier, mine de rien, il ne le franchit pas, et peut-être que s'il allait ailleurs, il pourrait le franchir, et dans ce genre de situation, si le club s'y retrouve financièrement, bien sûr, il faut que le club s'y retrouve financièrement, mais moi, je suis pour qu'on arrête de garder des joueurs par principe, qu'on mette un peu plus de dynamisme dans notre effectif. Et s'il veut partir, bah pourquoi pas qu'il parte. Après, c'est un joueur pour lequel moi j'aurais toujours de l'affection, même si à l'arrivée, il ne s'est pas imposé comme un cador indiscutable au sein de la charnière, il s'est plus imposé par défaut. Mais bon, comme l'a rappelé Barry, c'est un ancien Titi, ça touche un petit peu. Mais s'il veut partir, s'il il en a le désir, s'il y a l'offre, que le club s'y retrouve, carrément, laissons-nous partir.
Je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis d'accord avec toi.
Vincent, on ne sera jamais d'accord hein, sur Thiago Silva. Donc arrête de le relancer.
Juste, on ne va pas parler de Silva. Kimpembe, qui demande 14 millions si Marquinhos et Ramos les touchent, je peux le comprendre. C'est la logique du club. Il va pas demander moins alors qu'il sait qu'il peut s'aligner sur Marquinhos parce qu'actuellement, sur cette saison, il n'a pas joué beaucoup, mais on va dire depuis 6-7 mois, Kimpembe est peut-être le meilleur décès du club. Maintenant, c'est trop tard. Cet été, il y avait Chelsea qui proposait 60 millions, Kimpembe était prêt à partir. C'est à ce moment-là que Paris devait le vendre. Derrière l'arrivée, il fait quoi? Kimpembe se pète parce qu'on sait qu'il était sous infiltration. Il fait que 10 matchs. Maintenant, il a plus qu'un an de contrat. S'il veut plus rester, ça va être quoi? Ça va valoir 20 millions. On va toucher 20 millions alors qu'on aurait pu en toucher 60 l'été dernier.
Oui.
Savoir vendre au bon moment, on ne sait pas faire.
Ok. Bon, les gars, on va aborder le dernier sujet qui va être assez rapide. Donc, on commençait à préparer dans les commentaires pour la dernière phase de l'émission.
Si je peux me permettre, tu ne devrais pas laisser Basto comme ça tout seul en gros plan, ça lui va vraiment pas en fait.
Mais quelle bande de gamins. Tu m'as coupé dans mon truc pour sortir ça. Bref.
Moi non plus d'ailleurs, mais Barry, ça sera mieux.
Je lui disais, on va passer sur le dernier sujet qui est le point d'état du Bayern après son match face à Leipzig. En attendant, pour la dernière rubrique, commencez à poser des questions, puisque la dernière rubrique, c'est questions-réponses. Donc, si vous avez des questions à nous poser, on va y répondre. Là, tout de suite, on attaque le Bayern. Alors, le Bayern a fait match nul face à Leipzig. C'était un match que j'ai regardé, je crois que c'était avant-hier. Où, franchement, dans les deux équipes, j'ai plus peur pour Manchester City qui va affronter Leipzig que pour nous qui va affronter le Bayern. Parce que le Bayern, certes, c'est très fort. Mais l'intensité que Leipzig a élevée, c'est quelque chose. Et franchement, le Bayern, ils ont eu beaucoup de mal. Et je ne peux pas comparer ça avec nous, parce que je sais qu'on ne mettra pas autant d'intensité face au Bayern. Mais le Bayern a beaucoup de mal face à une équipe qui met de l'intensité. Ça, c'est quelque chose.
Ils ont la fraude d'Agressman. Ils ont l'autre fraude.
Ça, c'est quelque chose de fou. Donc, je vous laisse parier là-dessus, vite fait.
Ah, l'autre fraude de Nagelsmann. Ouais, j'espère Tonton il verra à ce moment-là, l'autre fraude de Nagelsmann, je le répète.
Nagelsmann est peut-être une fraude, mais face à Galtier, tactiquement, ça va être une boucherie.
Galtier le tabasse de Nagelsmann. Non, plus sérieusement. Non, c'est une private joke, hein, parce que en fait, Tonton est très fan de Nagelsmann et j'aime bien valer Tonton sur Nagelsmann. Bah oui, non, après le Bayern c'est une grande équipe, hein. Il y aura deux visages entre le visage Ligue des Champions et le visage que tu vois face à Leipzig. C'est plus même, comme tu l'as dit, intensité. Intensité, ça veut tout dire. Est-ce que Paris Saint-Germain est prêt à mettre la même intensité que Leipzig a mis contre le Bayern? J'ai des doutes, hein, j'ai beaucoup de doutes. Après, moi, comme je le dis, moi je suis pas quelqu'un qui flippe, et franchement, je ne flippe pas du tout du Bayern. Je pense que Paris Saint-Germain a les armes, malgré tout, pour aller chercher ce Bayern-là. Malgré le flou qu'on voit sur certains postes, je pense que Paris Saint-Germain a l'effectif pour le faire. Maintenant, c'est à eux de vouloir. Tu parles d'intensité. Leipzig, ils jouent complètement décomplexé contre Bayern. Ils n'arrivent pas à dire, ouais, mais au milieu de terrain, on trempe dedans. Et je pense que Paris Saint-Germain est capable de le faire. Et voilà, il y a deux saisons, on avait pratiquement les mêmes problèmes, les mêmes carences, même si on n'avait pas Lionel Messi, même si on n'avait pas... On n'avait pas tous ces joueurs qui viennent d'arriver au milieu de terrain, mais on avait globalement les mêmes problèmes il y a quelques saisons, on a réussi à les taper. Donc pourquoi on ne le ferait pas cette année? Moi, je pense qu'on a la possibilité de les taper.
Moi, je suis plus pessimiste. Pour un point, en fait, on remarque que les équipes qui étaient à la Coupe du Monde avec beaucoup de joueurs concernés, que ce soit le PSG, le Real ou City, par exemple, ont du mal dans cette reprise parce qu'il y a des formes disparates entre les joueurs. Galtier l'a bien dit, hein, au PSG. Tout l'effectif n'a pas la même mise en forme physique, etc., etc. Du coup, ça fait du manque de confiance parce que tu n'as pas forcément les résultats. Les Allemands, ils sont intelligents, ils ont fait quoi? Ils ont fait une vraie trêve d'un mois, une vraie remise au niveau physique et ils commencent que hier. Donc, je pense que physiquement et mentalement, derrière ce qu'amène la force physique, le fait que ce soit homogène, Munich part avec une longueur d'avance, ne serait-ce que là-dessus, sans parler après des problèmes tactiques, etc., etc.
Très rapidement, déjà, pour juste une petite précision pour Vincent, un fait pour moi, ce qui est un fait pour moi, ça s'appelle un avis, hein, ça s'appelle pas un fait. C'était juste pour le petit troll. Sinon, le Bayern, il y a des choses intéressantes à regarder dans leur calendrier. Dans la semaine prochaine, ils jouent Francfort qui est le deuxième de la Bundes. Francfort qui est une équipe qui joue très très bien cette année. 15 jours avant de nous jouer, ils vont jouer Wolfsburg. Pareil, Wolfsburg qui fait une bonne saison, qui peut poser des problèmes. Et c'est tout bête, mais si le Bayern fait 6 points sur ces deux matchs-là, Et notamment s'ils font 3 points contre Francfort, ils vont s'envoler en championnat. Mais s'ils font 6 points sur ces matchs-là, ils arriveront requinqués. Par contre, s'ils perdent ces 6 points en championnat, les doutes qui transparaissaient, en dépit de ce que dit Basto, hein, je suis d'accord avec ce que dit Basto au niveau du temps de récupération, mais les doutes qui transparaissaient dans cette équipe cette année risquent de se confirmer. Après, la grande question, c'est est-ce que ce Paris Saint-Germain sera capable de profiter d'une équipe de Bayern en doute ? Et ça, on peut en douter.
Ok, les gars, c'est le moment, la dernière rubrique de l'émission. Posez vos questions, on va y répondre, puisqu'on a fait les premiers sujets. Maintenant, c'est à vous de faire les sujets. On va essayer de répondre à vos questions le plus calmement possible, parce que des fois, ça part dans des débats interminables. Question de Kevin. Notre club de cœur doit-il être notre lieu de naissance ? Une deuxième, le foot doit-il mettre des limites au prix des joueurs dont les prix de fonds ne font qu'augmenter, j'imagine.
C'est impossible à mettre en place au niveau européen. T'es pas comme la NBA les sports US où tu n'as qu'un seul pays à gérer. Et à ce moment-là, c'est assez facile de se mettre d'accord entre les ligues puisque tu n'as qu'une seule ligue et donc tu peux mettre en place un salary cap. En Europe, réussir à harmoniser différents pays avec différentes législations, c'est malheureusement impossible. Et c'était quoi la première question ?
La première question, c'est est-ce que notre club de cœur doit être notre lieu de naissance ?
Il y a peut-être plus de cohérence, mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est parce qu'il... Après, la problématique de ça, c'est quand tu vas voir un mec avec un futal du Barça, un maillot du PSG et un jersey de Chelsea. Là, par contre, tu as du mal à savoir d'où il vient, ouais. Où est-ce qu'il est né.
Il y a une espèce de salary cap avec le nouveau fair play financier, puisqu'en 2025, tu auras le droit de dépenser plus de 70% de la masse salariale, etc., en revenus. Je m'exprime mal. On ne pourra pas dépenser plus de 70% des revenus dans notre masse salariale. Donc si on a une masse salariale qui est trop forte, c'est mort. Donc c'est une espèce de salary cap sans en être un, puisqu'il n'y a pas de plafonnement maximum d'un salaire comme en MLS.
Et il y a la problématique que posent les différentes fiscalités.
Oui.
Qui ne sont pas pondérés, malheureusement.
Et c'est pour ça que Chelsea fait notamment des contrats de 9 ans pour lisser un salaire sur X années. Et d'ailleurs, normalement, c'est pas autorisé par la FIFA, mais c'est les ligues qui choisissent. Donc, c'est tellement compliqué, puisque la FIFA impose des choses, mais les ligues donnent leur décision au final. Donc, c'est disparate. Et on le voit avec ce mercato d'hiver où Chelsea a dépensé plus que tous les autres clubs du Big Five réunis. Que tous les champions, que tous les Big Five, c'est ça. Quant à club de cœur naissance, non, pareil que Draya, je pense pas. Il faut juste avoir une histoire qui est racontée. Hein. Si par exemple, tu ne nais pas dans une telle ville, mais que ton grand-père t'a transmis sa passion, je ne sais quoi, du moment que tu as un point de raccroche ou une histoire que tu t'es construit toi-même et que tu n'es pas un opportuniste qui arrive en suivant un joueur ou un tel.
Vincent, pour revenir à ta question, D'où ma question sur la prime. Ouais, mais c'est Barry, il y a répondu tout à l'heure. Il t'a dit, entre guillemets, là, ce serait peut-être bien de faire ça parce que la prime, on peut l'étaler sur plusieurs années et pas son salaire. Donc oui, ce serait une bonne idée. Mais oui, pour rebondir sur ce que vous avez dit, mais moi, ça me fascine cette histoire de fair play financier. Comment on t'impose les mêmes choses que d'autres clubs alors que les mecs, ils peuvent faire des contrats deux fois plus longs que toi. Cette histoire de fair play, elle doit disparaître. Ça n'existe pas.
Il n'y a pas que ça comme incohérence, Nick. Si on a
les jeunes, les contrats des jeunes aussi. 3 ans chez nous,
ils ont des contrats de jeunes.
Il y a les droits télé, les fiscalités, effectivement, les situations contractuelles. Et pourtant, tu es à la même enseigne. Et en France, là, pour le coup, on est perdant sur tous les chapitres.
À ce moment-là, je suis désolé, chaque truc prêche pour sa paroisse. À ce moment-là, la Ligue 1 doit protéger les clubs français et dire maintenant, nos contrats, c'est sur 12 ans. Parce que les Anglais, ils se gênent pas. Regardez comment ils ont mis en avance la première ligue en faisant plein de trucs, entre guillemets, qui facilitent les joueurs, leur club. Donc au final, il faut faire pareil. Sinon, c'est douillet.
Question, Nix. Est-ce que tu as vraiment envie d'avoir 12 ans, un contrat de 12 ans sur, je sais pas, Benjamin
Sangaï?
Oui, c'est la question que je me pose et que je me suis posé pour Chelsea aussi, qui a fait un contrat de 9 ans à je sais pas qui là. Je me suis dit, s'ils se prennent un Paredes ou Herrera pendant 9 ans, ça c'est chaud. Là, c'est extrêmement chaud. Mais après, Chelsea, ils sont graves dans si tu fais pas l'affaire, on va te prêter. Il n'y a pas de souci. Il y a un autre club qui va payer ton salaire.
Il n'y a plus le nombre de prêts illimités comme ils avaient avant en Angleterre, par contre, où ils pouvaient
en je crois qu'ils se sont fait. Après, faut pas oublier ça, que Chelsea se sont fait comment dire ça, sanctionné par rapport à ça. Ils ne pouvaient pas recruter pendant 2 ans aussi. Ça explique ça aussi. Hein. Ils avaient de l'argent de côté. Sans compter le fait qu'Abramovic, quand il est parti, il a remis toutes les dettes à zéro. Tu as tout ton budget de transfert que tu n'avais pas utilisé pendant des années, plus tu n'as pas de dettes. C'est un peu normal, vu qu'au final, tu étales tout, quoi.
J'ai envie de répondre au fils de Ragnar. Je peux ?
Vas-y.
Bah, fils de Ragnar qui nous disait central. Mais le problème, en fait, si tu veux, c'est est-ce que tes problèmes défensifs ne viennent que de l'absence d'un central ? C'est une vaste question. Et pour partie, hein, parce qu'on a des problématiques, tous les joueurs en centraux, à l'heure actuelle, tu peux nommer des défauts. Mais est-ce que l'impact des trois de devant n'a pas d'impact sur la manière de défendre ? Est-ce qu'un milieu qui a du mal à trouver sa cohérence, qu'il a trouvé en octobre, novembre, décembre, mais c'est la seule occurrence où le milieu a trouvé sa cohérence quasiment depuis 6 ans, depuis le départ de Mota, est-ce que ce milieu est capable d'endiguer, ne serait-ce qu'une des parties, des contre-attaques qui vont venir dans l'axe ? Est-ce qu'on est capable de s'organiser en pressing pour limiter, pour maximiser le fait de récupérer la balle plus haut ? Je veux dire, est-ce que tu justifies les faiblesses défensives juste par le manque d'un défenseur ? Et est-ce que si tu rajoutes juste un défenseur sans résoudre le reste, tu seras meilleur défensivement ? Moi, je pense pas. Et à l'heure actuelle, Paris, il y a quoi ? Il y a un problème, c'est qu'il y a trois de devant. Ben, il y en a au moins un qui défend pas assez, et même Neymar, je le mets dans le lot. C'est le fait d'avoir trois devant, enfin, voilà. Ensuite, et sur trois stars, etc., donc tu n'en sors pas. C'est le fait d'avoir un milieu qui a du mal à trouver une cohérence. Et c'est le fait qu'au ben, niveau central, en fait, la seule garantie qu'on ait, le seul mec où on se dit « Ouais, putain, ouais, lui, ouais, carrément ben, », c'est Nuno Mendes. Après, tu as Mukiele qui est bien en ce moment, qui est en train de bien s'imposer. Mais c'est la seule garantie que tu as, c'est Nuno Mendes. Donc, tu as ton milieu qui ne va pas, tu as des problèmes en attaque, tu as des problèmes, effectivement, dans ta défense. À partir de là, ouais… Oui, en soi, un central, on en a besoin. On aurait aussi besoin d'un milieu. Yeah. Ce qu'on a besoin, c'est de réformer l'équipe.
Basto, je te laisse enchaîner sur la prochaine question que j'ai affichée. Comme ça, on passe pas
trop de temps. Pensez-vous qu'il serait bon d'avoir des anciens du club en direction ?
Oui.
En soi, oui, s'ils ont un niveau de compétence. Après, si c'est pour prendre Lama, je ne suis pas sûr qu'il ait envie de faire entraîneur du gardien au PSG. Je pense qu'il est très bien maintenant. Rai, de toute façon, maintenant, il est allé au Paris FC. C'est un peu dommage de lui, peut-être, après, entre ambassadeur qui sert à rien. Il faudrait qu'ils aient un rôle précis, qu'ils aient les compétences pour. Mais à compétences égales, oui, clairement, prendre des anciens dans la direction pour rappeler qu'il y avait un PSG avant QSI, ce qui n'est pas forcément le cas à tous les étages.
Clairement.
Moi, il y a une question qui me plaît beaucoup, parce que franchement, c'est ma formation que moi, je mettrais personnellement au Paris Saint-Germain. Pourquoi ne pas insister sur le 4-4-2 losange ? C'est un système un peu difficile, mais ça colle bien par rapport à l'effectif. Alors, moi, j'étais pour la défense à 3 au début. Mais au final, je me rends compte que le 4-4 de losange, il permet d'utiliser les latéraux quasiment de la même manière. Et en plus, tu ne déstabilises pas ta défense qui a l'habitude de jouer à 4. Donc, qu'est-ce que peut-être Dryas, tu penses de ça ?
Pour moi, ça ne tient pas la route à cause de Marco Verratti. Je vais utiliser ma marotte habituelle. Hein. Marco Verratti est un très bon 6 dans un milieu à 3, parce que grosso merdo, 4-4 de losange, c'est un milieu à 3 points de basse. Enfin, pas tout à fait, mais voilà. Et il est très très bon, il est très bon en point de basse avec ballon, mais son ballon, bah, il n'est pas capable de défendre en zone et du coup c'est compliqué. Et quand il est en 8, il joue pas assez haut par rapport au ballon et donc c'est pas non plus une réponse. Donc à l'heure actuelle, pour moi, on n'a pas l'effectif pour jouer de cette manière-là. En fait. Une fois qu'on a dit ça, pour en termes d'équilibre et surtout au regard de nos offensifs, hein, tu vois, je veux dire, ça veut dire que tu joues avec Neymar qui est en 9. Oui, en soi, ça peut fonctionner. Mais c'est plus pour l'occupation des ailes où j'ai beaucoup plus de doutes et je préfère vraiment avoir des profils de 4-3-3 avec l'effectif à titre perso.
Attends, je te pose la même question et en plus, je te rajoute derrière celle de Vincent qui parle d'un 4-4-2 à plat où je me dirais est-ce que c'est pas le tour de magie de Galtier qui a fait exprès de foirer tous ses systèmes pour au final revenir à son 4-4-2 à plat ? Qui kiffe tant ? Vas-y, Bastou.
Alors, 4-4 de losange, pour moi, non, c'est le système le plus difficile pour défendre. On a déjà suffisamment de difficultés en défense. C'est des systèmes qui sont utilisés notamment par Simonel Atletico, etc., etc. C'est un système qui demande vraiment une maîtrise défensive, ce qu'on n'a pas vraiment. Le 4-3-2-1 en sapin de Noël, c'est un peu ce qu'on avait après le système 1-3-3 milieu, Neymar Messi en 10 et Mbappé devant à la limite. 4-4-2 à plat, alors là, c'est le système pour mieux défendre quand on a des problèmes défensifs. Le problème, c'est qu'on n'a pas les ailiers, on n'a pas d'ailier de débordement. Neymar à gauche, il va se recentrer, et autant il fait les replis, mais est-ce que s'il est sur une aile, il va vraiment faire les replis derrière Nuno en longeant la ligne ? Je suis pas sûr. Et à droite, c'est pour mettre qui ? Il veut nous mettre Renato Sanchez ailier droit ? Donc oui, peut-être qu'il veut son 4-4-2, c'est peut-être aussi pour ça qu'il veut le remplaçant de Sarabia dès maintenant, mais on a quand même un manque de profil en 4-4-2. En 4-4-2 à plat, sans joueur de tête pour centrer si on joue sur le côté et sans vrais ailiers, ça me paraît compliqué.
Dryas, d'autres questions. On n'a jamais été aussi bon qu'au début de saison quand on avait les trois de devant et le déséquilibre était encore pire.
Ouais, sauf que c'est les trois premiers matchs, tu sors de la première du truc et il y a une espèce de période où tu as tout qui rentre. Tu sais, c'est cette espèce de temps de grâce où tu tentes une frappe. Enfin, faudrait regarder avec précision nos stats, mais je pense qu'on n'était pas loin du 0,8 buts par partir. Et à partir de là, ouais, c'est facile. Puis ça commence et ça dure trois matchs. On s'était vu, et d'ailleurs, moi aussi, je suis tombé dans le panneau, on s'était vu extrêmement beau. Pour moi, si tu veux, une période notable de ce Paris Saint-Germain-là, ça va plus être à partir de fin octobre jusqu'à début décembre. C'est quand tout à coup, tu as un milieu qui est cohérent avec un Soler Verratti et Vitinha un petit peu plus haut. Et Soler Verratti qui s'échangent les rôles, c'est-à-dire que Soler est 8 avec ballon, Verratti 6 avec ballon, mais Soler tout à coup devient 6 tout en couvrant l'aile, avec Verratti qui monte un petit chouïa une fois que tu as la perte de balle, et à ce moment-là, tu maximises les qualités de chacun. Mais c'est un équilibre qui malheureusement a duré un mois et demi et qui s'est cassé la gueule depuis. Mais les trois premiers matchs où tout à coup tu vas marquer 8 buts, façon, etc., c'est juste une anomalie statistique.
Les 5 premiers matchs sous un nouveau coach au PSG, que ce soit Blanc, Emery, Tourelle, Galtier, autant une arnaque que les interviews de Nasser aux Parisiens. C'est-à-dire qu'il faut compter à chaque fois, on commence bien avec 5 matchs, quel que soit le coach, et puis ça finit toujours de la même manière. Donc, faudrait éviter de s'enflammer.
Basto, que pensez-vous si le PSG va au Stade de France et le Qatar fait des travaux pour plus de résonance et d'ambiance comme au Parc?
Je pense pas, ce stade est mort. Les travaux coûteraient trop cher, le stade est trop grand. Pour moi, un nouveau stade, si on en fait un, ça doit être 60 000 places maximum, 80 000 places, ça me paraît trop grand. Et il faudrait des sacrés travaux pour rendre l'acoustique. vu comment l'ambiance est morte là-bas, il faudrait reconstruire toutes les tribunes et le toit. Donc ça me paraît
même plus, hein, c'est structurellement la manière où c'est construit, il faut encapsuler. Donc ouais, c'est le bas des trucs qui doivent partir un peu plus en biais comme ça.
En fait, il faudrait détruire pour reconstruire.
Pas loin.
Je crois qu'on a fait le tour des questions.
J'ai pas répondu. C'était quoi déjà la question?
Stade de France, non?
Ah oui. Non, je voulais juste dire à Basto. Ah non, t'exagères. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 62 millions.
Ah, 62 000 places, tu veux.
62 000 places, oui. Pas 60 000. 60 000, c'est un peu peu. C'est pas beaucoup.
Bah écoutez, les gars, on est sur 1h30. On a fait le nouveau format. C'est 1h30. Fini les petites vidéos. Du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va vous dire bon dimanche. Demain, vous avez le débrief Pays de Cassel face au Paris Saint-Germain sur la chaîne avec Dryas, Tonton et Recoba notamment. J'espère que cette fois-ci, ça va mieux se passer à Bollard parce qu'il y a deux semaines, on a été... C'était pas très...
C'est pas la même équipe. Il a peur, Galtier, mais l'équipe type, donc...
non, conférence de presse, il a dit... Je peux pas. C'est pour ça qu'il a mis quasiment l'équipe type.
Pour...
Voilà, exactement. C'est pareil. Ok. Merci à tous. Et rendez-vous demain soir, comme je dis, pour le débrief Lens Pays de Cassel. Bon dimanche, la team.
Ciao à tous.